I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Alors, avant de démarrer l'épisode, j'ai un petit message à vous faire passer et qui va particulièrement intéresser tous ceux qui se sentent souvent fatigués, épuisés et qui aimeraient retrouver toute leur énergie. Vous connaissez Jack, il était mon invité sur l'épisode 182 et vous aviez adoré l'épisode que j'avais fait avec lui. 90 000 vues sur YouTube, des dizaines de milliers d'écoutes sur Spotify, des chiffres hallucinants pour un épisode technique. Eh bien, figurez-vous que Jack, il a longtemps lutté contre la fatigue chronique, contre les coups de mou, contre cette sensation d'être constamment épuisé dans sa journée. Eh bien, devinez quoi, il a réussi à transformer sa vie en appliquant les bonnes méthodes et des techniques simples et efficaces. Et il a créé une formation qui est révolutionnaire et qui s'appelle 30 jours énergie. Elle permet de retrouver sa vitalité et sa motivation en seulement 30 jours. Et j'ai eu l'occasion de découvrir et de suivre ce programme de formation en intégralité. Et je dois dire qu'il est assez impressionnant et extrêmement qualitatif. On y retrouve des techniques pour améliorer son alimentation, pour améliorer son sommeil, pour gérer son énergie. Et franchement, il y a des astuces auxquelles on n'aurait pas pensé. Certaines qui sont vraiment novatrices et je les ai découvertes au fur et à mesure de la formation. Et en plus, Jack, il explique super bien, il est passionné par son sujet et il transmet ça à merveille. Et aujourd'hui, eh ben, je vous propose, vous aussi, de découvrir le programme 30 jours énergie. On en a longuement parlé avec Jack et on a décidé de vous faire un super cadeau. Alors, vous connaissez mon talent pour la négoce et en tant qu'auditeur du podcast, Jack a accepté de vous offrir une réduction de 100 euros sur le prix de la formation. Et pour en profiter, c'est très simple. Vous allez dans la description de n'importe quel épisode, vous cliquez sur le dernier lien qui correspond normalement à la lettre, mais vous serez redirigé vers la formation. Et vous pouvez aussi retrouver la page en tapant directement dans votre barre de recherche biomecaniquepodcast.com/énergie. Cette offre, elle est valable uniquement cette semaine, alors ne la manquez pas. C'est une opportunité en or pour dire adieu à la fatigue et retrouver une énergie constante. Par exemple, vous allez notamment apprendre comment modifier vos repas pour booster votre énergie, comment avoir un sommeil plus réparateur, quelles sont les méthodes les plus efficaces aujourd'hui pour gérer son énergie au quotidien, quels sont les meilleurs compléments à prendre. Bref, c'est rempli de conseils pratiques, de routines simples et d'astuces qui sont efficaces pour que vous puissiez vous sentir au top de votre forme. Et en plus, Jack, il est tellement confiant dans l'efficacité de sa méthode qu'il vous offre une garantie. Si vous ne voyez pas d'amélioration dans votre énergie dans les 30 jours, vous serez remboursé intégralement. Vous avez donc absolument rien à perdre. Donc, je répète une dernière fois, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode ou alors vous tapez biomecaniquepodcast.com/énergie dans votre barre de recherche et vous aurez la réduction de 100 euros sur la formation. La promo se termine dimanche prochain, le 26 mai. Traînez pas et maintenant, place à l'épisode.
Mais c'est un peu l'histoire d'Icare, hein, concrètement. On parle beaucoup du complexe d'Adonis à cause de la mythologie qu'il y a derrière Adonis, parce que le complexe d'Adonis, dysfonction musculaire, hein, c'est comme ça que l'a nommé Pop. Hein. Mais concrètement, on est sur quelque chose qui est aussi transversal avec le mythe d'Icare, quoi. Les mecs, ils ont tellement voulu tutoyer le soleil qu'ils en sont brûlés les ailes. Et là, c'est la même chose, ils ont tellement voulu tutoyer l'image du corps parfait qu'au final, ils se sont crachés, quoi.
Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre le fonctionnement du corps humain, à améliorer votre santé et diminuer vos blessures, et qui vous permet aussi de découvrir les secrets des athlètes, des professionnels et spécialistes de leur domaine. On y parle entraînement, performance, nutrition, thérapie aussi, et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé, et à chaque fois avec des invités exceptionnels. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal, au Canada, et jusqu'à présent on s'est beaucoup intéressé à la santé du corps et son fonctionnement, notamment dans la pratique d'une activité physique, mais aujourd'hui on va plus particulièrement s'occuper de la mécanique de l'esprit et des troubles psychologiques qui sont liés au sport. Pour ça, je suis avec Jérôme Cuadrado, en plus d'avoir le même prénom que le mien. Il est psychologue clinicien et il est accompagnateur sportif en préparation mentale. À travers son métier et sa passion, qui est notamment la musculation, justement, il a acquis de solides connaissances cliniques dans le domaine de l'image du corps, des troubles du comportement alimentaire, tout ce qui est dysmorphie musculaire, dysmorphophobie, des termes compliqués mais qu'on va disséquer au cours de cet épisode. Vous allez notamment découvrir ce qu'est une dysmorphie musculaire et comment ça se manifeste. Est-ce qu'il est possible de développer une addiction destructrice au sport, comme c'est le cas avec les drogues par exemple? Quels sont les troubles psychologiques que l'on peut développer après une cure de produits dopants, comme des stéroïdes anabolisants? On va voir aussi si les réseaux sociaux sont responsables de la modification de l'image du corps et est-ce que le fitness a vraiment favorisé l'apparition de troubles psychologiques depuis son apparition. Et puis finalement, tout sportif, quel qu'il soit, ne risque pas un jour peut-être de sombrer dans la folie. Ce sont les thèmes que l'on va aborder dans ce podcast. Donc un épisode très dense, record absolu de longueur sur ce podcast, mais je suis à peu près sûr que vous ne vous ennuierez pas. Vous apprendrez beaucoup de choses, tellement les sujets d'aujourd'hui étaient complexes, variés et passionnants. Sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Jérôme. Quant à nous, on se retrouve à la fin de l'épisode. Donc avant de commencer sur peut-être ton parcours en psychologie, déjà comment t'en es venu à te dire que t'avais envie de t'insérer dans le cerveau des gens, comment tu t'es intéressé au sport, c'est quoi ton parcours là-dedans en musculation avant tes études? Ouais,
j'ai toujours eu des parents qui m'ont poussé, tu vois, à faire des activités. Pour ça je les en remercie, hein. Toujours des activités, musique et sport, c'était les bases. Voilà, on a été éduqués comme ça dans la famille, et de base, voilà, moi je, bon, musique, j'ai fait, voilà, je fais de la batterie, j'avais un groupe et tout à l'adolescence, tu vois, c'est belle période là. Et puis sport à 6 ans, j'ai voulu faire du judo. Ils m'ont inscrit au judo, j'ai fait du judo de 6 ans à 18 ans. Parsemé d'arrêts à cause de blessures, du coup, bon, diverses, hein, parcours sportif, mais j'ai toujours fait plusieurs sports, c'est-à-dire que le judo a été la base, vraiment c'était le fond, toujours judo, que j'ai beaucoup aimé. Je regrette de ne pas avoir fini le cursus à cause d'une luxation acromioclaviculaire, hein, qui était fait au rugby, mais du coup j'ai fait judo, et derrière j'ai fait du hand, une période de hand du coup de 2 ans, j'ai fait du triathlon, parce que mon père était secrétaire d'un club de triathlon, donc il m'a poussé à faire du triathlon. C'était pas forcément ma tasse de thé, mais on faisait de la natation, du vélo, j'adorais ça, la course beaucoup moins, c'était vraiment pas le truc que j'aimais. J'aime pas courir, mais voilà, mais et du coup qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Rugby, après 2 ans de rugby avec les copains, c'était plus un esprit, tu vois, groupal, lycée, identité groupale. Les copains font du rugby, ben on va aider au rugby. Et puis c'était une très belle époque. Je leur ai laissé, ça m'a laissé beaucoup de souvenirs, mais je leur ai laissé aussi une épaule. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu, du coup, stoppé dans mon parcours sportif, parce que c'était une épaule qui a été très mal soignée et qui, du coup, m'a laissé des petites séquelles que j'ai mis du temps à résoudre. Donc voilà, mon parcours sportif.
Ok. Et la musculation, là, l'entraînement en salle de sport à ce moment-là, comment elle est arrivée?
Et c'est à ce moment-là, à la fin, si tu veux, on avait un petit partenariat avec la salle de musculation, où j'ai fait mes premières, premières barres, hein. Bon, on les a tous fait à la maison, on va pas se mentir, avec des haltères achetés à Decathlon, devant un film, sur son petit banc incliné ou la chaise de maison. On l'a tous fait, ça, je pense, hein. Voilà, quelques pompes abdos.
Je pense qu'il y en a beaucoup de, surtout la génération, la nôtre, enfin les années 90, où c'était quand on était ado, fin d'ado, il n'y avait pas encore toutes les salles de sport qu'il y a aujourd'hui, c'était pas, peut-être pas aussi répandu.
Oui, et puis on n'avait peut-être pas la visibilité, on n'avait pas ces mouvements sociaux à l'heure actuelle qui sont quand même très influents et très présents.
Je pense que maintenant, à partir de 16-17 ans, tu vois, ou même avant d'ailleurs, il y a tellement une omniprésence du fitness, des salles de sport qui sont toutes partout, moins chères les unes que les autres, ce qui fait que quand on veut démarrer, c'est hyper facile de s'inscrire directement. En plus,
oui, c'était pas démocratisé à ce point-là en termes de sport à part entière, parce que là, à l'heure actuelle, c'est le bifit, ça reste quand même une tendance très sport à l'heure actuelle. La musculation, c'était un monde très fermé. Ouais. Et quand tu en parles aux anciens, au final, est-ce que la musculation est un sport? On va te répondre non. Tu vois, ils vont te dire non. C'est pas un sport, c'est un à côté. C'est pas un sport à part entière pour eux. Enfin, moi, quand j'en ai discuté avec, tu vois, avec des préparateurs physiques de la old generation, pour eux, c'est un à côté, en fait. Ça sert à une prépa, ça sert à un objectif, mais ce n'est pas un sport en soi.
il y avait pas d'objectif en soi, mais
enfin, ouais. Il y avait un objectif, pourtant, tu vois, c'était des culturaux, ou c'était des gens qui allaient pour être fit, mais c'était faire une activité physique, mais ce n'était pas l'identité du sport. Comme on pourrait dire, le rugby a une identité, tu vois, a une identité, il y a des règles.
Ouais, c'est quand tu disais que tu faisais de la musculation, ouais. C'était presque pourquoi, ok, d'accord, tu fais de la musculation, mais sinon tu fais quel sport?
Exactement.
C'est un peu comme si c'était pour t'aider à faire ce sport, là où ça a un peu dérivé au fur et à mesure, et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tu vas en sport, c'est une activité à part entière.
Et là, à l'heure actuelle, exactement, c'est une identité à part entière. Le sport, vraiment, la muscu, il y a des égéries, il y a vraiment des règles, des normes, il y a des tendances, et tu vois, ben, d'autres courants qui en ont dérivé, hein, des choses un peu comme le crossfit, le ci, le ça, ben là, c'est des identités pures et dures. Donc, c'est vrai que s'identifier à un sport en faisant ses activités physiques, là, c'est ok.
Et toi, du coup, ta première séance en salle, ton expérience numéro 1, est-ce que tu t'en souviens? Et est-ce que c'était ce contexte-là, tu le ressentais très fort, ce côté un peu marginal déjà dans la pratique?
Mais tu vois, d'en parler, il y a des souvenirs qui me reviennent. Hein. C'est toujours avec les copains du rugby. Je sais pas s'ils écouteront la vidéo, enfin l'audio, mais je leur passe le bonjour à la section moringsoise de rugby, du coup, à l'USM. Et je me rappelle de cette période-là où on avait ce partenariat et du coup, ils nous ont permis d'aller à la salle de musculation, la seule salle de musculation qu'il y avait, du coup, sur ma ville natale. Et on y allait. Je me rappelle des premières séances et c'est vrai que rentrer dans cette salle, tu découvres ce monde-là. Tu vois, nous, on avait vraiment cette représentation très fantasmatique des papas, tu vois, des darons qui faisaient de la musculation, qui étaient musclés, qui c'était des John Rambo, hein, ces gars-là. Tu le voyais, ils s'incarnaient vraiment l'hypermusculérité, la virilité, vraiment ce qui représente pour nous, en fait, vraiment l'image d'un homme, tu vois, vraiment le daron. Et là, on se rendait dans ce monde-là, et là, en fait, c'était important, et pour moi, ça a été ce moment-là, je me suis dit, je passe d'un enfant adolescent, ah ben là, je vais construire de la fibre d'homme, tu vois, c'est vraiment... Enfin, je me rappelle à ce moment-là, c'était vraiment ce que je me disais, j'appartiens au monde des grands, tu vois, tu t'entraînes avec les grands, tu vas sur le même banc de développé couché, tu mets beaucoup moins de poids, mais tu utilises les mêmes outils, en fait, de construction d'un corps d'homme. Et je trouvais que c'était un moment important pour moi, surtout qu'en plus, on était entre nous, donc je te laisse imaginer l'effet d'exaltation de groupe que ça génère, mais c'est vrai que je trouve que c'était un moment important symboliquement, tu vois, dans notre construction. Voilà, dans notre construction identitaire de jeunes hommes.
Un petit peu le rituel marabout là, de passage de l'enfance à l'adulte.
Mais comme à l'heure actuelle, ils ont aussi hein, ce phénomène d'aller à la salle, de construire du coup une enveloppe musculaire qui a leur fait du coup symboliser le fait qu'ils sont un passage de transformation dans leur adolescence, où il va y avoir la construction du coup d'un corps musclé qui appartient du coup à la définition de corps de l'homme. Vraiment d'un adulte, c'est un passage symbolique. Hein. Il y en a beaucoup qui se lancent dans ça. Enfin moi, chez les patients que j'ai, des fois c'est vraiment symbolique de ce passage-là. Quoi.
Bon, et tu vois, rien que le fait de parler de ça, déjà on voit que t'as quand même un gros attrait pour la compréhension, la psychologie, les choses comme ça. Est-ce que ça déjà t'avais cette attirance pour la compréhension psychologique des actions ou je sais pas comment on pourrait appeler ça hein. Avant de commencer le tes études où c'est venu progressivement parce que là on en parle un petit peu après tu vois de ta première séance un petit peu de ce contexte là mais à ce moment là tu n'avais peut-être pas conscience, est-ce que ça t'est venu après par rapport à tes études, est-ce que tout ça t'a ouvert un petit peu l'esprit sur le fonctionnement psychologique de la chose? Si on peut dire ça comme ça.
Je pense que de fond, on va parler vraiment en termes de tempérament, peut-être de ce qui est déterminé biologiquement dans mon fonctionnement, tu vois, psychologique. J'ai toujours été curieux de comprendre, de savoir comment les choses fonctionnent, toujours poser des questions, tu vois, de prendre un peu l'objet, de le retourner dans tous les sens pour voir un peu comment il est fait, de quoi il se décompose. Hein. Et j'ai toujours été curieux.
Mais ça, c'est un côté très scientifique, ça.
Ça fait partie de mon identité. Puis j'ai toujours été poussé aussi par mes parents dans la compréhension. Les livres ont une très grande importance hein, dans la famille. On m'a toujours poussé à acheter des livres. Tu vois, moi, je me fais plus souvent plaisir en achetant un livre qu'en achetant un autre truc. Hein, mais et tu vois, je lisais des livres concrètement. Je me suis toujours embêté au lycée. Je me suis embêté, j'avais pas de bonnes notes. Je vais pas mentir. J'étais très bon élève toute ma scolarité à part au lycée. je m'embêtais, le programme m'intéressait pas, je lisais des livres de Freud. On était en histoire, j'avais le livre d'histoire, je le posais sur la table, en fait, un peu incliné, et je mettais le livre de Freud dedans, en fait. Donc, je lisais Freud en classe, quoi. Les profs s'en rendaient pas compte, mais voilà, tu vois, j'étais déjà, il y avait un truc qui m'intéressait dans la psyché humaine, vraiment comprendre le fonctionnement de l'être humain. Et après, c'était médecine. Tenter médecine, du coup, et parce que du coup, c'était quelque chose qui, pour moi, incarnait, on va dire, cette vision très intégrative du corps, hein, le fonctionnement, la construction du corps, c'est pour moi, les années médecine resteront les années les plus intéressantes, les plus passionnantes, parce que c'est un engorgement de connaissances et de savoirs et vraiment d'émulsions intellectuelles qui m'ont correspondu. Mais après, la sélection était très drastique. Il y avait des gens qui étaient très intelligents, qui étaient très normés aussi à ce qu'on attendait. Et c'était peut-être pas mon fonctionnement. Et ce qui m'a poussé à me rediriger, du coup, sur psycho. Et à faire, du coup, un double cursus en psycho. Et à me former à la fin sur, du coup, la préparation mentale. Mais ça, après, c'est grâce, on va dire, à mes jobs étudiants.
Ok, sans vouloir cracher effectivement dans n'importe quel cursus médical, c'est vrai que pour avoir fait le même parcours que toi, sauf que moi après je suis pas allé en psycho, bon après j'ai fait une école d'ostéopathie, mais pour avoir fait ce parcours, d'avoir fait le concours de médecine
le concours
de la première
passé,
année, ouais exactement, je pourrais en parler dans de futurs épisodes un peu plus en détail, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on attend
des promos. Faudrait retrouver les anciens des promos pour faire un best-of.
Ouais. Perdu dans la nature un petit peu partout, à mon avis, je pense. Donc, ils attendent quand même de toi cette faculté à retenir. Il y a pas tant de réflexion. On te demande pas de réfléchir. On te demande pas. Alors, attention,
oui,
je veux mettre personne à dos. Je parle de manière générale. Ouais, c'est comme je l'ai ressenti,
ouais,
moi.
C'est du système. Mais après, ça dépend de ce qu'on en fait de cette information. Tu vois, moi, la formation, à l'heure actuelle, j'ai énormément de souvenirs de médecine. Tu vois, je peux te réciter la table le tableau de Mendeleïev. Il y a des choses de biologie que je me rappelle. C'est des choses et notamment les cours qu'on avait, les cours d'anthropologie et c'était l'UE7 à l'époque. L'UE7 sur les sciences humaines et sociales. Je me rappelle encore des cours d'un des profs de psycho que j'ai eu après, qui venait nous faire cours en médecine, qui était le professeur Cantar. Et tu vois, je me rappelle encore de ces cours, des cours sur tout ce qui était du coup le stress sur les modèles transactionnels, sur les modèles ci, sur les modèles ça. C'est encore des informations qui me servent aujourd'hui, mais que j'ai choisi voilà de réutiliser. Mais c'est vrai que, comme tu dis, tu as entièrement raison sur ça, et je pense que c'est ce qui nous a pas plu aussi, c'est, voilà, ça c'est un cours, il y a un par cœur, il y a des QCM après, et en fait, le QCM ne va pas évaluer la réflexion, mais la capacité à engorger des connaissances et à les restituer d'une manière bête, en fait.
Mmh. Ouais, non, mais c'est ça. Il y a quelques petites matières qui te laissent, on va dire, un peu de marge de réflexion et d'analyse, des choses comme les statistiques, comme on va demander d'appliquer des modèles, mais des modèles où il va falloir réfléchir, il va falloir trouver les bons, etc. Donc ça va demander un petit peu de feedback sur ce que tu es en train de faire, mais c'est vrai que la plupart du temps, si on reste sur des matières très biologiques, très biochimiques, des choses comme ça, on est dans le par cœur absolu.
Bien sûr, mais
tu vois, moi je me reconnais entièrement en toi, puisqu'il y a plein de choses que j'ai...
La bioche, ça nous a servi pour la muscu. Tout le cycle des glucides, le cycle
ouais,
de Krebs,
exactement.
Le catabolisme, le lamonisme.
Tout à fait. Rien que la compréhension de comment fonctionne le corps et ça permet ensuite d'avancer plus vite dans les découvertes. Comment t'as pensé, toi, on va faire un petit saut en avant, t'étais en plein dans tes études, ou en tout cas, je sais pas, peut-être à la fin de ton cursus pour devenir psychologue, donc clinicien, comment t'as fait ce pont en te disant, tiens, je pourrais peut-être me spécialiser ou en tout cas m'orienter dans les troubles psychologiques, dans le sport, l'entraînement, etc. Faire un peu le pont entre cette passion, cette activité sportive que tu avais, cet attrait, et en même temps la psychologie. Parce que y en a très peu, j'ai l'impression, qui parlent de ça. C'est comme ça que je t'ai découvert, moi, notamment sur la chaîne de Nassim Saïli, où tu avais fait une intervention pour une vidéo. J'ai l'impression qu'il y en a très peu. Et c'est notamment pour cette raison que je voulais absolument t'avoir sur le podcast. Je trouvais que c'était hyper intéressant.
Alors, comment l'attrait pour du coup cette thématique et la psychologie du sport, si je comprends bien?
Ouais. Pourquoi cet attrait et est-ce que ça t'est t'as eu un flash à un moment donné? Tu te dis tiens, je pourrais réunir les deux, tu vois? Parce qu'il y a les psychologues, il y a ceux qui parlent de psychologie, qui enseignent la psychologie.
Oui, traditionnel, la psychoclinique, psychopatho traditionnel.
Ouais, et puis il y a les sportifs, et puis il y a au milieu toi un petit peu où tu parles beaucoup de la psychologie dans le sport. Est-ce que ça t'est venu d'un coup?
Tu vois ce que je te disais tout à l'heure en termes de tempérament, cette curiosité naturelle qui m'a poussé à me situer au milieu de tout et à regarder tout. C'est mon plus gros problème. Je voudrais tout faire, je voudrais tout savoir faire et je m'intéresse à tout. Mais il y a vraiment quelque chose qui m'a en tout cas beaucoup, je pense, beaucoup influencé. Je tiens à lui rendre aussi coucou, hein, et le remercier aussi, mais c'est en fait savoir que pendant mes études, voilà, j'étais autofinancé et que j'ai dû trouver des jobs. Donc j'ai fait des jobs étudiants sur les plateformes logistiques, hein, je faisais les 3-8, je sortais de matin ou de nuit, j'enchaînais directement avec les cours. C'était pas facile, jusqu'à ce que se présente l'opportunité de travailler à la salle de musculation universitaire, c'est-à-dire le service des sports universitaires au SUAPS, qui est sur le domaine du cours au concours, et s'est présenté du coup l'opportunité d'y travailler. Alors j'y allais m'entraîner, de manière vraiment amateur, hein. J'y allais pour faire mon sport, ma petite muscu, 2-3 séances semaine, quelque chose de très amateur, hein. Et du coup, en discutant avec l'encadrant sportif, il m'explique que du coup il y a un poste qui est vacant dans l'encadrement et qu'il ne recherche pas de personnes vraiment formé, c'est un job étudiant de surveillance, en fait. Et je postule, et je suis pris. Et ça fait, du coup, 6-7 ans que j'y travaille. Et à force, tu vois, d'y aller, de m'entraîner, de m'intéresser, et puis savoir que j'étais sous la tutelle d'un préparateur physique, donc quelqu'un qui a bossé en plus dans les labos à STAPS, quelqu'un qui était très très bien qui est très bien formé et qui a une bonne formation aussi, et qui a cette intelligence de l'analyse, une analyse très pertinente. Donc, je tiens à lui faire un petit coucou à Damien Renaud, à mon collègue, s'il nous écoute. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, qui est hyper riche d'informations. Et cette curiosité aussi est là de me montrer ce monde-là, de prépa physique, du monde du sport, avec cette analyse, ce recul. C'est un ancien haut niveau aussi. Donc, tu vois, il y a vraiment une profondeur d'analyse qui, moi, c'est hyper intéressant de l'entendre parler. Et ça m'a poussé à m'intéresser vraiment à ce milieu-là, d'un point de vue de la prépa physique, que j'adore vraiment. Tu vois, comprendre l'interaction de l'entraînement avec la physiopatho derrière, la bioméca, l'anatomie, même après tout ce qui peut être sur la rééduc, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Et il m'a vraiment donné envie d'aller un peu plus loin, et je pense que à un moment donné dans les études, si tu veux, en psychologie, t'as la licence, elle est traditionnelle à l'époque, il n'y avait pas de sélection en licence master, mais il y a eu une révolution faite qui fait que la sélection n'était plus en master 1, mais en licence. Voilà. Moi, je suis passé à travers les mailles du filet, j'ai fait ma sélection en master 1. En master 1, on te demande de trouver un thème. Et j'ai toujours voulu faire de la recherche, j'ai toujours été intéressé par plein de choses, et là, à un moment donné, je me suis dit, je vais aller voir ce professeur, je sais qu'il bosse sur ça, moi, je veux faire un doctorat, j'y vais. J'y suis allé. Je suis allé voir du coup le professeur Grégory Michel qui dirige ces travaux-là de master et de thèse, et je suis allé le voir. Je dis, moi j'ai une idée, j'aimerais travailler sur la santé des sportifs. On faisait partie à un moment donné de l'INSERM, il travaillait sur les cohortes iShare. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la plus grande enquête nationale qu'il y a sur la santé des étudiants. Une très très grosse cohorte, on étudie du coup les prévalences sur telle pathologie, les déterminants qui peuvent amener à ça, et à vraiment des fins de prévention. Et on travaille énormément avec les équipes santé étudiantes aussi sur ces dynamiques-là. Et du coup, je lui dis, mais moi, je veux travailler sur la santé des sportifs. Je travaille à la salle de musculation. Il y a des choses que j'ai remarquées, parce que du coup, j'y travaille depuis X années, parce que si, parce que ça. Et j'aimerais travailler sur la santé des sportifs. Donc, je lui ai proposé une petite étude. Et alors, bien sûr, c'est la frustration, parce que entre ce que tu proposes et ce que lui l'intéresse, il y a toujours un gros écart. Donc, du coup, il faut reformuler 50 demandes. Et ces 50 demandes, elles sont bien, parce qu'elles te permettent d'aller chercher de l'info et de toujours faire un tour d'assimilation et d'accommodation. Et c'est ça l'adaptation. Tu t'adaptes vraiment à cette demande que tu as, et lui à ce qu'il veut, et tu finis par trouver un objectif commun. Et cet objectif commun, au final, je l'avais pas encore, mais c'était la dysmorphie musculaire. Donc tu vois, c'était un parcours qui a été co-construit. J'ai toujours co-construit en fait ma réflexion avec les recommandations qu'on me donnait, mais ça soit avec ce que je voyais à la salle de sport, ce que je voyais dans mes stages en sciences psycho, ce que me disait mon directeur de thèse. J'ai toujours vraiment construit ma réflexion avec vraiment l'expertise de gens qui étaient des fois dans des milieux qui n'étaient pas du tout les mêmes, quoi. Tu vois, entre la psychologie clinique, la psychopathologie pure et dure qu'enseigne du coup le professeur Grégoire Michel, et par exemple ce que je pouvais rencontrer à la salle de sport avec le préparateur physique du coup Damien Renaud, c'est pas du tout les mêmes milieux. Mais par contre, à un moment donné, la jonction entre ces deux milieux fait que Je m'y suis trouvé. Et là, ben, du coup, je me suis beaucoup intéressé à la préparation mentale. Alors, personnellement aussi, parce que moi, ça m'intéresse de savoir quelles sont mes limites, pourquoi à un moment donné, il y a un truc que j'arrive pas à faire, pourquoi j'y suis pas d'un point de vue physique, pourquoi j'y suis pas d'un point de vue mental, donc ça me questionne. Donc, je le fais aussi pour moi, derrière, hein, je vais pas mentir. Il y a aussi un intérêt d'application personnelle. Mais, je me suis beaucoup intéressé à ça d'un point de vue de la préparation aussi mentale. Je me suis dit, là, on a des hauts niveaux, on les encadre, ils ont besoin d'aide, je vais essayer de leur donner aussi des billes. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis orienté à la fin, du coup, de mon cursus en psychologie clinique. Je me suis orienté sur une formation, du coup, en préparation mentale. Voilà. Et la thèse en ce qui a suivi.
Bon, ce qui va nous permettre de rentrer directement dans le vif du sujet. On parlera de la thèse après, également un peu peut-être de préparation mentale. Moi, j'ai quelques questions.
Oui.
Mais tout d'abord, c'est quoi exactement une dysmorphie musculaire ?
Elle est dure à prononcer. Hein.
Ouais.
Mais t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Il y en a beaucoup qui me disent quoi ? Une dysmorphie ? Oui, une dysmorphie.
Dysmorphie. Et encore, j'ai pas dit dysmorphophobie. Parce que...
Alors, c'est le problème, en fait, tu vois, du complexe d'Adonis, on va dire. Parce que c'est aussi cette appellation, le complexe d'Adonis, dysmorphie musculaire, dysmorphophobie musculaire. Alors, concrètement, il y a personne qui a dit à un moment donné, on va trancher, on va avoir un consensus international, on va l'appeler en francophonie dysmorphie musculaire. Personne l'a fait. Tu vois, moi, j'ai vu des publications avec dysmorphophobie musculaire. Alors, à l'heure actuelle, il est de coutume de dire maintenant la peur d'une dysmorphie corporelle. Pour nommer la pathologie de la dysmorphophobie corporelle, on dit plutôt la peur d'une dysmorphie corporelle.
Parce qu'en fait, c'est la peur d'avoir peur de son corps.
C'est la peur d'une partie qui peut être déformée de son corps. Effectivement, peur d'être difforme, d'avoir une difformité apparente et d'avoir un jugement au regard de l'autre qui va à un moment donné te catégoriser comme quelque chose de non conforme. Alors, c'est une pathologie, la dysmorphie musculaire. Comment elle est catégorisée, il faut savoir qu'elle a une évolution, il faut aussi comprendre d'où elle vient, la dysmorphie musculaire. Ce sont des anglo-saxons, en fait, notamment l'équipe du coup du professeur Harrison J. Pop, qui ont vraiment posé les premiers jalons de la dysmorphie musculaire. Ce sont des équipes, du coup, américaines, vraiment, qui ont cette vision très, tu vois, très classification. Cette classification des pathologies. On est sur un abord clinique qui est très, comme on le dit nous, DSMique. Hein, c'est vraiment le DSM, c'est la référence, c'est un peu la bible des pathologies. Tu as les critères diagnostiques, tu as le traitement. Enfin, c'est vraiment la taxonomie des maladies mentales, on va dire. Et ben, ils ont cette vision très taxonomique, c'est-à-dire symptômes, syndrome. Ok. Et du coup, on se réfère à tel protocole derrière. Et c'est eux qui ont plus ou moins posé les jalons de la dysmorphie musculaire, qu'ils ont appelé d'abord reverse anorexia. Puis après, ils ont appelé dysmorphie musculaire. Puis après, ils ont questionné son appartenance nosographique. Donc au début, elle était classée dans les troubles somatoformes indifférenciés, dans le DSM-4. Et puis là, ils l'ont classée comme un trouble obsessionnel compulsif dans le DSM-5, la dernière bible qui est sortie, et qui fait plutôt référence à un trouble obsessionnel compulsif. C'est-à-dire, on va avoir une vérification obsessionnelle d'une partie de son corps parce qu'elle nous angoisse.
Mais parce qu'on est d'accord pour dire que la dysmorphie, pour le coup, on n'est pas uniquement dans soit l'anorexie ou on en parlera après, la bigorexie, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir une dysmorphie, on peut avoir l'impression d'avoir un nez difforme, d'avoir...
Oui, la dysmorphie au sens général, c'est la peur d'une partie de son corps qui est difforme. Voilà.
Là, faut pas oublier donc il en existe autant qu'il existe de parties du corps.
C'est une sous-entité. C'est vraiment, c'est une dysmorphie dans les dysmorphies, en fait. Il faut vraiment le voir comme une dysmorphie corporelle spécifique, la dysmorphie musculaire. Voilà, c'est une parmi tant d'autres. Donc, tu peux avoir peur de ton nez,
d'accord,
tu peux avoir peur de tes cheveux, tu peux avoir peur de ta barbe, de la taille de tes mains, de tes pieds, de tout, quoi. De tout. Ça, c'est vraiment une dysmorphie.
Ok, donc, je comprends bien que parmi les dysmorphies, il y a la dysmorphie musculaire qui concerne, pour le coup, plus précisément, donc, les athlètes et les ceux qui pratiquent la musculation et qui vont avoir cette impression d'une masse musculaire qui n'est pas conforme.
C'est ça.
À ce qu'ils devraient, ou en tout cas ils ont cette idée qu'on va les juger par rapport à leur masse musculaire. Quelqu'un qui se sentirait par exemple trop maigre, il se dirait ben moi j'ai pas assez de muscles par rapport à la normalité, on me regarde de travers, je suis considéré comme faible.
C'est ça. Peu importe. Faut savoir en fait que comme je disais, c'est important de retracer vraiment la timeline de développement du coup du concept de dysmorphie musculaire, parce que entre 93 et 2001 il va y avoir énormément de travaux qui vont commencer à apparaître. Ça va être le grand boom, mais on est vraiment sur l'âge d'or un peu de la publication sur la dysmorphie musculaire, puisque là, on commence à poser les jalons, il y a beaucoup de choses à faire. Et tu vois très bien qu'à un moment donné, il y en a, il a dit, Olivardian, notamment en 2001, il a dit, bah, écoutez, voilà, la dysmorphie musculaire, concrètement, c'est une dysmorphophobie corporelle spécifique. Et du coup, je vais utiliser les critères diagnostiques de la dysmorphie corporelle, la dysmorphophobie corporelle, je vais utiliser ces critères diagnostiques et je vais les reformuler pour qu'on puisse avoir des critères A, B, C, comme dans la dysmorphie, dysmorphophobie corporelle, qu'on puisse avoir des critères A, B, C qui correspondent du coup aussi à la dysmorphie musculaire. Donc en fait, concrètement, la peur de dysmorphie corporelle, c'est très simple, tu as trois critères, c'est le fait d'être obsédé par une partie de ton corps qui a une altération du fonctionnement quotidien en B, donc A, perdu d'une partie du corps difforme, ça c'est le critère A. Le critère B, c'est l'altération clinique significativement voilà, significative. Et le critère C, ça va être du coup que c'est en présence, que c'est présent, mais et que c'est pas explicable par une autre pathologie ou une consommation toxique ou ci ou ça. Et concrètement, ben, le chercheur, il a dit, ben, écoutez, on va prendre les critères de la dysmorphophobie corporelle générique. Et puis, on va dire que maintenant, critère A, c'est la peur d'une partie du corps pas assez musclé. Critère B, c'est que ça cause une détresse cliniquement significative à cause, des heures d'entraînement, de la nutrition, le fait qu'il va plus au resto, de la consommation aussi de substances dopantes. Et critère C, le fait que c'est présent, mais ce n'est pas explicable par une autre pathologie. Voilà. Tout simplement, ils ont reformulé les critères génériques de la dysmorphophobie corporelle pour dire dysmorphie musculaire, on l'adapte.
D'accord, bon, ça, donc ça arrive de manière plus fréquente chez les personnes qui s'entraînent, en tout cas qui font du sport. C'est quelqu'un qui n'a absolument rien à faire de faire du sport, pour le coup, il n'a pas de problème d'image de soi-même, ou en tout cas, peut-être qu'il en a une, mais...
Au final, ça n'a pas été fait en études, tu vois, c'est un truc qui nous intéresse beaucoup, mais comment évaluer quelque chose qui peut être présent d'une manière asymptomatique, mais asymptomatique parce qu'on n'a pas les outils pour l'évaluer. C'est ça la question en fait qu'il faut se poser, c'est est-ce que nos outils sont assez spécifiques pour mesurer ce qu'on cherche? Et c'est ça la question. Tu vois, concrètement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelqu'un qui peut avoir une forme de dysmorphie musculaire, mais qui n'a pas de forme sportive? C'est-à-dire, concrètement, si on fait un parallèle avec l'anorexie, tu vois quelqu'un qui souffre d'anorexie, donc une restriction du coup alimentaire pour maigrir, pour avoir un corps qui est toujours plus mince, et bien concrètement, comment il va faire pour réguler son poids? Il va y avoir une restriction alimentaire, dans un premier temps, c'est le plus simple. Et dans un deuxième temps, il va peut-être utiliser le sport pour l'aider à réguler cette masse graisseuse. Donc, il y a un autre concept là qui s'immisce et qui est très important, en tout cas moi dans ma réflexion, c'est ce qu'on appelle les pratiques problématiques de l'activité physique. Voilà, ça a été développé par Mélissa Risk, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Mélissa Risk, avec qui j'ai correspondu, qui est très intéressant. Et ce concept-là, en fait, si tu le transposes à la dysmorphie musculaire, est-ce qu'on n'a pas des personnes qui aimeraient être plus musclées, qui sont en souffrance de ne pas être assez musclées et qui, par exemple, vont faire attention à ce qu'ils mangent, avoir une vie saine, à, par exemple, marcher souvent ou voilà, faire des choses simples, mais pas avoir une forme vraiment sportive et que ça ne soit pas déclaré. Comme quelqu'un qui peut avoir la dysmorphie musculaire, tu vois, qui va chercher à réguler son taux de masse musculaire comme celui qui est asymptomatique, hein, celui qui fait pas de sport, qui voudrait avoir la régulation de sa masse musculaire, de sa masse graisseuse, et bien celui qui a la dysmorphie musculaire, qui a une forme sportive, lui va être un assidu de la salle. Tu vois, limite à ce qu'il y ait une comorbidité avec une addiction au sport derrière. Et bien est-ce qu'on n'a pas de forme là? Tu vois, est-ce qu'on n'a pas un continuum?
Mais sachant que le principal critère pour améliorer construire ou développer sa masse musculaire, c'est le fait de porter du poids. On va pas s'intéresser ici à comment, pourquoi ou quoi, mais je veux dire, la base, c'est quand même avoir un stimulus suffisamment grand sur des fibres musculaires pour qu'elles se déchirent et pour qu'elles se reconstruisent. La base, elle est là. Donc, quelqu'un qui aurait cette dysmorphie musculaire, donc cette peur d'avoir peut-être pas assez de muscles, admettons, ou en tout cas mal répartis, ou je ne sais quoi, il suffit même sans faire de recherche sur Google, en discutant avec 2-3 personnes, et peut-être même par un phénomène de bon sens, d'adaptation, elle va aller en salle. Enfin, je veux dire, c'est logique que le premier critère, donc, c'est de soulever du poids. Donc, comment j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut avoir cette phobie sans, avoir cette problématique sans aller chercher la solution la plus évidente et la plus facile, à savoir lève du poids.
Mais
tu vois.
Il faut transposer ça, par exemple, à la situation des personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire de type anorexie. Quelqu'un qui veut vraiment perdre du poids, comment il ne peut pas penser à courir? Mais tu as des anorexies qui n'ont pas de forme sportive.
Oui, mais parce que là, par exemple, le fait d'arrêter de manger et demande moins d'efforts. Alors après, bon, c'est bon, chacun, chacun, mais si tu veux, et moins, magique, hein, et moins.
Vraiment, ils pensaient que s'ils mangeaient que des salades, ils allaient prendre ils allaient bien manger en mangeant que des salades. D'autres qui pensaient que s'ils allaient courir, ils allaient prendre du chest. Tu vois, ça aussi, les pensées un peu magiques, hein, le fonctionnement psychologique de certains, il va y avoir des raccourcis qui vont se faire et qui vont aussi créer une symbolique propre à chacun, hein, dans la résolution du conflit psychique. Mais, comme je disais, faut faire attention. En fait, on est sur des critères d'évaluation. Par exemple, n'importe qui peut avoir une mésestime de soi corporelle. C'est-à-dire, je ne suis pas assez musclé. Mais savoir comment on évalue la dysmorphie musculaire, on l'évalue avec à l'heure actuelle avec des tests. Avec des tests comme par exemple le DMS qui a été validé en français par Lisa Chabat, qui a été validé là il y a quelques années, ou je crois que c'était l'année dernière. Je t'enverrai les liens des citations que j'ai, et que tu pourras les mettre peut-être en description ou quoi que ce soit si certains s'intéressent à ça. Et bien, par exemple, moi, je travaille avec le MDDI. Le MDDI qui a été développé par Hildebrandt. Le MDDI va évaluer en trois dimensions la dysmorphie musculaire avec un cut-off de 35 ou 39. Ça dépend de la littérature. Savoir que trois dimensions, c'est le fait de se percevoir comme pas assez musclé, le fait d'avoir une altération du fonctionnement quotidien à cause des pratiques qui vont être mises en place pour prendre du muscle, et aussi l'estime de soi corporelle. Mais il suffit que tu cotes au maximum sur les deux dimensions et que tu ne cotes pas pour celle de la pratique physique, et là tu pourrais avoir la dysmorphie musculaire sans pratique physique, tu vois.
Ouais, parce que on essaye là pour le coup avec des scores de catégoriser à partir de tel niveau, de tel score, on va dire, tu as la maladie. Enfin, tu as mal habitué le problème.
Mais quoi. Par exemple, je te donnerai l'exemple d'un jeune adolescent, concrètement, qui peut avoir 17-18 ans, qui est pas bien dans sa peau, qui aimerait être plus musclé, qui va commencer à faire attention à l'alimentation, qui va avoir des antécédents de brimade, qui va commencer à ne pas aller faire des restaurants, à ne pas aller faire ci, à ne pas aller faire ça, et être omnibilé par le fait de prendre de la masse, mais qui n'ose pas passer le cap. Voilà, de la salle de sport. Est-ce qu'on peut dire qu'il a une forme présyndromique de dysmorphie musculaire qui commence plutôt, on va dire, à bas bruit, par ressembler à quelque chose comme d'ordre des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire d'une manière non spécifique. Tu vois, et qui s'oriente. Il faut savoir qu'une pathologie, elle est pas fixée, elle est dynamique. Est-ce qu'on a quelque chose qui peut être un peu, tu vois, un peu millimélo au départ, et qui s'oriente vers dysmorphie musculaire parce que vraiment après on va pouvoir l'identifier comme tel parce que 2 ans après il aura mis en place des stratégies sportives qui vont vraiment nous permettre de dire là c'est caractéristique de la dysmorphie musculaire, mais que c'était présyndromique il y a 2 ans.
Je pense que tous ceux qui sont allés dans une salle de musculation, qui pratiquent actuellement, qui ont pratiqué, qui ont fait de la musculation, du crossfit, enfin tous ces sports ou ces activités physiques qui ont une répercussion directement sur l'esthétique ou sur le qui ont une conséquence visuelle, on sait tous de, enfin je connais pas grand monde qui en pratiquant se sentait suffisamment musclé, tu vois. Si on prend vraiment le cas de quelqu'un qui va en salle de sport, ça fait 1 2 3 4 5 ans qu'il pratique, c'est quand même assez rare d'entendre quelqu'un dire oui non mais moi là je suis bien, je me maintiens. Il y a quand même ce truc connu de se dire que on en veut toujours plus, il y en a jamais assez. Et moi je le constate, enfin je l'ai constaté de manière personnelle, parce que quand j'ai commencé un peu à m'entraîner plus jeune, j'avais les premiers résultats qui sont arrivés, et bon, aujourd'hui j'ai pas une masse musculaire, enfin je veux dire j'ai un corps semi-athlétique de quelqu'un qui fait un peu de sport. Si je me compare par rapport à mes premières années, effectivement, il y a un gros changement, il y a une évolution qu'on peut pas nier. Par contre, j'arrive peut-être à mieux l'intégrer aujourd'hui, mais je pense que j'aurai toujours cette sensation quand je vais m'entraîner ou quand je me regarde que c'est pas assez. Alors, est-ce que c'est parce que je me suis comparé aux mauvaises personnes avec les réseaux, avec les bodybuilders pros, avec ceux qui en font leur métier? Parce que ça a déformé complètement ma réalité. Mais finalement, si on part de ce principe que chaque pratiquant se sent jamais assez musclé ou a toujours l'impression de ne pas être assez musclé, malgré cette conscience de savoir qu'on a évolué, est-ce que finalement on n'est pas tous en dysmorphie musculaire?
Ah, Mais tu vois, je pense que ça dépend. La question comme tu l'as formulée, je pense aussi à. Je vais faire peut-être attention à ma réponse. Je pense que ça peut parler aussi de toi, de ta façon de te percevoir. Mais c'est pas grave. On prend un rendez-vous pour le cabinet. T'inquiète pas. Pour discuter de tout ça.
Oui, on discutera de mes problèmes psychologiques. Mais tu vois un petit peu où je veux en venir, c'est que il y a quand même cette idée que on se sent jamais assez musclé. Quoi.
Oui et non. Alors, pour avoir quand même entraîné, on a quand même 1100 adhérents annuellement, donc j'ai quand même vu pas mal de monde, j'ai encadré quand même pas mal de monde en salle de musculation. Donc là, je le parle vraiment plutôt avec, on va dire, une prépondérance de l'encadrement sportif, tu vois. Et un peu avec le psy, mais concrètement, moi, j'ai déjà entraîné des mecs qui avaient ce qu'on appelle un phénomène de compensation en se disant « je suis une machine ». Je suis une machine, regarde comment je suis balèze, t'as vu mes biceps, t'as vu mes bras, tu vois, il y a un phénomène de compensation qui leur pas après quand t'es un peu averti, et tu te dis, mais là, ça compense, c'est juste qu'il doute un peu de lui et que derrière, il y a un phénomène de compensation, de survalorisation, tu sais, il joue un peu au coq, quoi, pour pas perdre la face au groupe. Mais effectivement, ce que tu évoques, moi, il est très intéressant. Et là, je réponds plutôt en qualité de, voilà, plutôt en tant de psy là maintenant. Le pas assez. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans la psy, c'est l'objet petit A, hein, de Lacan. Voilà, fustigez-moi si je me trompe, mais c'est le jamais assez, en fait, c'est l'objet du manque. Et concrètement, on peut faire une analogie avec, je sais pas si tu c'est un fan de Baudelaire, moi j'aime beaucoup Baudelaire, c'est le tonneau des Danaïdes, le tonneau de la haine, il évoque le tonneau des Danaïdes dedans. C'est un rapport aussi à la mythologie, c'est le fait qu'en fait, quoi qu'il arrive, si tu vas à la salle, c'est pour combler, pas dire un manque, je trouverais ça complètement déplacé en termes de signification populaire, mais c'est pour t'occuper, c'est parce que tu en as envie et parce que du coup ça te fait du bien. Et on veut toujours plus de quelque chose qui nous fait du bien. Je veux dire, concrètement...
Mais ça, c'est valable pour toutes les activités, la peinture, le cinéma, n'importe quoi, finalement.
Et quand on a une passion, on en veut toujours plus. Et ça nous remplit. Ça nous remplit. Mais c'est un peu ça, le problème. C'est que certains, là où ça va remplir certains, ça va les satisfaire. Ils vont se dire, voilà, ouais, c'est vrai qu'on pourrait un peu plus. D'un point de vue très objectif, là, je manque... Là, ouais, je sais que j'ai un petit retard sur tel groupe musculaire. Il va falloir que je l'inclue. Peut-être un petit rappel pour telle séance, tu vois. Il va y avoir une construction très objective et très pragmatique dans l'entraînement avec un investissement totalement positif. L'individu va être investi. Il va être satisfait quand même de son résultat global, malgré... le fait qu'il pourrait être un peu mieux sur ci, sur ça, mais ça va pas l'occuper. Et la différence, il y en a qui, ça va les occuper. Ça va se dire, là, c'est pas normal, je suis en focus dessus, là, je suis complexé, et là, en fait, concrètement, ils vont faire toujours plus, toujours plus. Tu sais, le fameux one more rep. One more, one more, one more. Ouais, il en faut plus en entraînement. Et ben là, ces gens-là, en fait, concrètement, c'est un peu le tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire qu'ils ont beau remplir, et ben il est percé au fond du tonneau. Ils ont beau en rajouter, ça fuit en bas. Et c'est parce qu'ils sont pas satisfaits d'eux et qu'ils ont ce qu'on appelle un idéal hyper exigeant. Pour eux, il faudrait être au-dessus de tout. Et là, c'est pas ça.
Et puis peut-être aussi une perception de la réalité qui est faussée. Enfin, quand je dis de la réalité, par exemple, c'est que si tu veux développer, on va parler pour les puristes, l'arrière de l'épaule, qui est un muscle assez très difficile à développer pour la très très grande majorité des pratiquants de musculation. C'est-à-dire que la réalité, tu la prends en compte, tu dis ok, j'aurai jamais le deltoïde arrière, le deltoïde postérieur de Ronnie Coleman ou de Schwarzenegger par exemple. Je vais quand même travailler dessus pour essayer de le développer à mon niveau, quitte à que ça soit peut-être une obsession, mais si tu veux, je garde en tête que je vais pas avoir des attentes surestimées ou je vais rester plutôt plus ou moins dans la norme. Ça serait un comportement normal, par exemple, quelqu'un qui aurait en fait la bonne perception de la réalité, c'est-à-dire que ok, concrètement, j'aurai jamais un
voilà, gros deltoïde. Voilà, un entraînement en disant, écoute, je me mets un petit rappel, je vais faire du développé à Arlo à la fin de la séance, je me fais mon petit rappel, je sais pas, je me le mets en tempo pour augmenter l'effet de congestion de pump et pour que ça augmente un peu le volume et du coup mon rendu, on va dire, musculaire visuel, hein, que je puisse voir, je vais être content de moi, même s'il est pas top top, voilà. Là, c'est une construction que moi je trouve très, très adaptée à la situation et qui, pas pathologique si ça en souffre pas, mais il y en a certains, en fait, comme je disais, voilà, c'est vraiment le fait que leur estime de soi, elle a été, à un moment donné, elle a été percutée par quelque chose, que ça soit du harcèlement, une histoire de vie, n'importe quel déterminant qui va venir percuter assez fort l'estime de soi pour détruire la composante estime de soi corporelle. Et à ce moment-là, la moindre, vraiment, vraiment, le moindre manque sur le corps, que ça soit, ben, par exemple, tu vois, moi, j'en ai vu pas mal avec les mollets. Certaines populations, les mollets à construire, c'est la croix et la bannière. Il y en a certains qui ont des morphologies très filiformes. Donc, quand ils ont une obsession en se disant, ben là, je veux un muscle gros, en sachant qu'ils sont plutôt avec des insertions, tu vois, très longues comme ça, c'est très compliqué à obtenir, ce volume. Tu vois, par exemple, moi, je suis petit trapu. Ben, si à un moment donné, j'arrive pas de me dire, je veux un muscle long et filé, tu vois, vraiment, comme ça. Non, en fait, concrètement, je vais pas allonger à la taille de mon humérus, c'est pas possible. Mais vraiment, le fait de ne pas pouvoir composer avec ce qui nous définit profondément d'un point de vue morpho-anatomique et de ne voir que ça, là, ça parle, je pense, de l'individu. Ça parle de quelque chose, de son histoire. Pourquoi, à un moment donné, on peut pas lâcher sur quelque chose qui nous blesse, tu vois? Pourquoi ça le blesse à ce moment-là? Pourquoi ne pas avoir... le deltoïde, comme tu dis, de tel ou tel body, pourquoi c'est affreux? Et ben là, ça renvoie souvent, quand tu discutes avec eux, ça renvoie souvent à une blessure du passé qui a pas été pensée. Vraiment, tu t'en es pas occupé et tu l'as pas non plus conscientisé.
Ok, donc ça veut dire que ça se serait transféré ailleurs et tu vas chercher une solution à un problème que tu ne pourras, enfin, tu vas chercher une solution qui n'existe pas, donc tu vas sans arrêt essayer d'avoir ce fameux deltoïde super gros, là où ça n'y arrivera jamais, c'est parce qu'en fait, c'est comme si tu essayais de résoudre un problème dans ton passé de quelque chose d'ailleurs.
C'est
quoi.
Ça. Et je te donne un exemple, très, très simple. J'en ai plusieurs, mais il y en a un qui m'avait vraiment choqué, dans le sens où c'était criard, quoi. C'était vraiment... On entraînait un jeune qui du coup voilà, il voulait juste faire tu vois, de la muscu avec un objectif derrière de force. Bon, bah écoute, 18-20 ans, l'objectif du développé couché, symbole de la puissance de l'homme, voilà, il voulait vraiment pousser au pec. Bon, bah écoute, pec biceps, c'est ce qu'on sait dans la dysmorphie musculaire par exemple, qui est le plus investi, on va dire, dans l'estime, hein, l'estime de soi corporelle chez personnes souffrant de dysmorphie musculaire. Le pec et le biceps, c'est vraiment les groupes phares, hein, ça revient tout le temps. Bon, il fait son truc et donc nous on l'aide à construire un plan d'entraînement pour une périodisation de force sur, toi, des choses simples, hein, sur 4-5 semaines avec du 4x10 en passant à du 4x4 sur du coup à 4 semaines avec une semaine de décharge. Enfin, tu vois, des choses très simples, vraiment. Je veux dire, pour un débutant, c'est ce qui est recommandé, hein, ou le fameux 5x5. Hein. Et bien, du coup, ce qui se passe, c'est que ça se passe très très bien le premier mois. Petite pause, on repart sur un cycle. Et là, sur un entraînement, d'un coup, perte d'efficience musculaire de 60% de la force. Je sais, c'est incroyable. C'est pas possible, c'est incroyable. Et puis, on comprend pas, je regarde le mouvement, je me dis, non, il y a un truc, tu vois que c'est pas mécanique. Tu vois que c'est pas mécanique, tu vois que c'est pas corporel, que c'est le corps qui parle, enfin, c'est l'esprit qui parle à travers le corps, là. Tu vois sur son visage quelque chose qui se transforme, il y a un truc qui se passe, tu vois, au moment où il pousse. Donc, quand j'en discute avec lui, je lui dis, qu'est-ce que tu redoutes quand tu pousses? Je sens que tu te limites. Il y a un truc qui te bloque. On discute et tout. Je lui dis, tu as peur de te faire mal? Il me dit, ouais, j'ai un peu peur pour l'épaule. Je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé à l'épaule? Il fait, mais je me la suis déjà pété. C'est-à-dire, mais je me suis pété la clavicule au judo, quand j'étais ado et tout. D'accord. Je suis une projection, il est mal tombé, la clavicule a pété. Bon, écoute, ça arrive, hein, clavicule et tout. D'accord, et on en parle, et j'ai fait, mais j'ai rien que ça. Hein. Ouais, mais en fait, c'était la deuxième fois que je me suis pété. La même? Il fait, ouais. Je fais, quand est-ce que tu te l'es cassé, la première? Il fait, mais en fait, quand je suis né, le médecin accoucheur, il a tiré tellement fort, il m'a pété la clavicule. Donc, en fait, concrètement, il s'est pété deux fois la clavicule dans sa vie. Voilà. Déjà, quand il était bébé, donc autant dire qu'il n'avait pas les mécanismes de défense adaptés pour gérer cette douleur-là. Donc, ça a dû créer quand même quelque chose, un élément un peu inassimilable. Hein, parce qu'à ces moments-là, c'est que des éléments sensations sans possibilité de mettre des mots dessus. Donc, c'est très compliqué. Tu vois, quand tu as des patients qui ont eu des pathologies très tôt, dans leur existence, même avant qu'ils ne puissent formaliser cette douleur, l'exprimer, c'est souvent très compliqué à élaborer parce qu'en fait, on est toujours sur des éléments non verbaux. C'est très compliqué des fois. Et donc,
Ça rentre vraiment profondément dans le corps, profondément dans l'esprit, comme ça vient se loger.
Il ne faut pas oublier que le corps, dans ta tête, tu as une image mentale de ton corps. Il y a deux choses qui se distinguent. Tu as le schéma corporel et l'image du corps. L'image du corps, c'est ta représentation des événements et des sensations qui ont pu arriver sur ton corps. Par exemple, je sais pas si t'aimes qu'on te gratte la tête, c'est parce que tu l'associes à des éléments positifs. On t'a gratté la tête quand t'étais petit, par exemple. Et tu sais que tu adores ça parce que ça te rappelle des bons souvenirs. C'est un peu la Madeleine de Proust, hein, concrètement. Et, Et tu as le schéma corporel, c'est comment tu articules du coup ton fonctionnement du corps dans un espace-temps déterminé. Voilà. Vraiment la mobilité, je suis le patron moteur du corps. Et bien concrètement, lui, à un moment donné, son image du corps, au niveau de la localité du coup, épaule-pec, et bien à un moment donné, il y avait un point névralgique, ce point douloureux qui était réactivé. C'est-à-dire qu'on appelle ça un retour du refoulé. Sauf que du coup, il avait peur de se faire mal parce que du coup, il avait ce souvenir de cet affect douloureux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, la seule solution possible, c'était à un moment donné l'inhibition. Donc, il s'est réduit dans son mouvement, il s'est réduit dans sa possibilité, dans son efficience, pour éviter de trouver une stimulation trop forte qui le rappellerait à cette douleur. On en a beaucoup parlé pendant une séance. On a beaucoup parlé, je l'ai beaucoup rassuré, j'ai beaucoup contenu, j'ai accueilli tout ce qu'il avait à me dire, j'ai beaucoup contenu. Et ben, tu sais quoi? La semaine d'après, il repartait à fond.
Mais alors, comment t'expliques que ça lui soit arrivé, ça, en plein milieu du début du deuxième cycle? Enfin, en plein milieu de l'entraînement, d'un coup, comme ça, alors que, par exemple, la semaine d'avant, ou les deux semaines qui ont précédé, il était au top de sa force. Est-ce qu'il y a eu un élément, peut-être, dans sa vie qui lui a rappelé, ou...
Alors, tu vois, après, le problème, c'est que c'est la salle. Je sais faire le, tu vois, c'est un peu des fois compliqué, hein, mais le changement de casquette, il est pas facile quand tu exerces des métiers, des fois, différents. La salle, c'est la salle. J'étais là pour accueillir en termes de préparation mentale, pas de préparation psychologique, parce qu'il y a une différence entre les deux, on pourra l'évoquer après, hein, si tu veux. Mais là, c'était plutôt, qu'est-ce qui se passe, là, à un moment donné, sur cette action, qui peut expliquer cette inhibition? Et là, du coup, on a essayé de trouver une stratégie, c'est-à-dire si tu as mal à un moment donné, tu dis stop, moi je te prends les haltères, tu es en sécurité. Tu vois, on a trouvé une parade, en fait, à la pensée parasite qui pouvait émerger. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, ou qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines précédant cet événement? Ça, je peux pas te dire. Je peux pas te dire, il a pu se passer tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pu lui en parler, on a pu lui dire, ah, tu fais les parents, les frangins, je sais rien, dit, tu fais des pecs, t'as pas peur que ça repète l'épaule? Ah, mais c'est vrai, je me suis pété l'épaule. Tout bête. Ou vraiment, on est sur quelque chose de très, très intrinsèque où l'individu, il reprend des stimulations sur cette zone. Sauf que ça stimule tellement la zone que ça va réactiver, du coup, tu vois, cette image du corps. Ça va réactiver des souvenirs en disant, mais ouais, ces sensations, là, sont quand même associées à la douleur. Je te donne un autre exemple. Il y avait, du coup, un athlète qui faisait, du coup, du saut en hauteur. Il avait, à un moment donné, un défaut de placement du pied. Savoir qu'ils ont un positionnement du pied qui est très, très, très typique, du coup, en saut en hauteur. Et le problème, c'est qu'il n'arrivait pas à positionner son pied en pré-saut, vraiment sur la phase d'appui, tu vois, pour sauter. Il n'arrivait pas à le positionner. Et on a beaucoup discuté. Et bien, en fait, tu vois, mais concrètement, il s'était fait une entorse de cheville sur, je sais pas, il avait dérapé, il s'était passé un truc, il a eu une perte du coup d'adhérence. Il s'est fait une bande entorse cheville au moment de la phase du coup de saut. Et bien, tu peux y aller. À chaque fois qu'il devait sauter, il avait un mauvais positionnement du pied parce qu'il ne voulait pas retrouver la position dans laquelle il s'était tordu la cheville. Le corps mettait tout simplement une sécurité. Voilà. Tu ne retrouveras pas ce chemin-là pour te refaire mal. Je vais t'empêcher de retrouver le chemin de la douleur.
Ok, bon, c'est des comportements qui sont automatiques, inconscients, dont on s'en rend pas compte.
Oui, voilà. Et de toute façon, tu le vois souvent chez les athlètes qui se sont fait des blessures sur les phases de réathlétisation et de reprise. Il y a toujours un peu une inhibition, tu vois. Est-ce que, par exemple, je sais pas, un mec qui se fait les croisés, il va repartir au basket, il va repartir au rugby. Et le mec, il va se poser la question. Il va se dire, OK, sur cet appui, ça tient pas. Là, je vais prendre un choc, tu vois. Est-ce que ça va tenir? Tu vois, le premier choc, tu sais, t'étais pas serein, quoi. Tu te poses beaucoup de questions. Mais c'est normal. Là, c'est conscientisé. Mais quand c'est inconscient, c'est encore plus vicieux à aller chercher, tu vois.
Pour revenir un peu sur la dysmorphie musculaire, est-ce qu'il y a des moyens de le voir arriver venir? Disons que, est-ce que, je sais pas, s'il y a des athlètes ou des personnes qui nous écoutent là, qui ont commencé en salle de musculation il n'y a pas trop longtemps, ou ça fait quelques mois qui s'entraînent, qui pratiquent le sport et qui se reconnaissent un peu dans ce parcours de j'en veux toujours plus, mais j'ai quand même pas l'impression non plus que ça entache toute ma vie, mais en même temps, bon, j'essaie de contrôler mes calories parce que je veux, tu vois, il y a quand même ce truc, je veux arriver à mon résultat, donc il faut quand même que je mette les moyens. Et puis à un moment donné, il y a ce côté un peu sacrifice aussi, c'est qu'à un moment donné, tu veux avoir ta performance, ouais. T'es obligé de te dire bon, ben je mange à telle heure, je mange telle chose pour obtenir tel pourcentage de masse grasse. Je sais que c'est hyper délicat parce que c'est très nuancé, mais est-ce qu'on peut le voir venir ? Est-ce qu'on reste dans la normalité quand on va faire une compétition de bodybuilding et qu'on veut atteindre des résultats qui sont hyper précis et en même temps qui rongent un peu notre vie, mais en même temps on se dit, ben ouais, mais à un moment donné, si tu arrives à ton objectif, t'es obligé d'avoir ces sacrifices. Est-ce qu'on bascule dans la dysmorphie ? On le voit venir ou pas, ça ?
Je pense qu'avant de répondre, il faut surtout faire attention, on l'a beaucoup évoqué avec Nassim sur la vidéo qu'on avait fait, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le diagnostic, il va dépendre aussi d'un contexte. Un mec qui est en compète, par exemple, qui prépare, je sais pas moi, un IFBB ou qui prépare un Grand Prix, par exemple, le Grand Prix des Pyrénées, j'en sais rien, tu vois, n'importe quelle compète de body, hein, peu importe, il est dans un contexte, c'est-à-dire qu'il y a un objectif.
Excuse-moi, je te coupe, mais en quoi, par exemple, cet objectif serait plus important ou aurait plus de valeur que quelqu'un qui le fait pour lui-même, tu vois ? Parce qu'il a toujours souffert d'être gros, admettons.
Mais c'est compliqué. Je pense que c'est individu dépendant. Tu vois, moi, je suis vraiment partie prenante d'avoir une, on va dire, un diagnostic sujet, hein. C'est-à-dire qu'il y a un sujet, il y a une forme de dysmorphie, il y a un contexte, et c'est à un moment donné le jugement sur un ensemble symptomatologique, un contexte, et du coup aussi le regard d'un, on va dire, d'un individu sur sa pathologie qui va déterminer si oui ou non il souffre de dysmorphie musculaire, par exemple. Tu vois, comme n'importe quelle pathologie. Alors après, il faut faire attention. Les psychologues, ils n'ont pas pour vertu de diagnostic. Mais moi, je diagnostique pas. Par contre, je dis, à un moment donné, tu vois, dans des bilans, je fais quand même pas mal de bilans enfants, ados, adultes, même bilan sportif, mais me dis, à un moment donné, concrètement, là, il y a tel élément, il y a quand même une forme, peut-être, de ci, de ça, qui est évoquée. Mais je mets toujours au conditionnel, tu vois. Et après, c'est au médecin, c'est au psychiatre, c'est à l'endocrinologue, je ne sais rien, à poser, au médecin généraliste, à poser le diagnostic. Mais il va s'étayer sur ce que moi, effectivement, je vais dire, comme il s'étayerait sur un bilan ortho, un bilan kiné, un bilan psychomote, et il s'étayerait sur n'importe quoi, hein, qui dirait, ben là, effectivement, ça a fait appel, il y a tous les critères diagnostiques de telle pathologie, tu vois.
Et est-ce qu'il y a deux, trois critères qui sont d'urgence ou qui mériteraient d'être vraiment considérés par quelqu'un? Tu dis, attention, si tu fais ça, c'est intéressant d'aller peut-être consulter, ou en tout cas de mettre le pied sur la pédale de frein.
Moi, j'évalue toujours le risque pour l'individu, le risque urgent et vital. C'est-à-dire, faut pas oublier qu'on a des gens, des fois, qui sont en très grande détresse psychologique, qui vont pas être bien, qui vont avoir des pensées négatives, qui vont ruminer. Et ces pensées négatives, elles peuvent être synonymes, des fois, de tentatives de passage à l'acte. Et ça, c'est toujours très important à évaluer. C'est le risque vraiment vital de l'individu. Est-ce qu'il est en danger ? Est-ce qu'il constitue un danger aussi pour lui ? Là, tu vois, il y a différents types de consultations, mais dans une consultation, tu vois, à un moment donné, si tu passes en phase d'évaluation de risque, ou si tu restes sur un entretien traditionnel. Il faut faire très attention à ça. Par exemple, moi, lorsqu'un body, il vient me voir, quelqu'un qui souffre de troubles du comportement alimentaire, ou de troubles de l'image du corps, ou de dysmorphie musculaire, quand il me dit que, par exemple, surtout chez, on va dire plutôt dysmorphie musculaire, voilà, parce que c'est le thème, mais il me dit que concrètement, là, il est, sur une cure de fou furieux, qui commence à avoir des fluctuations thymiques pas possibles, il commence à avoir des pulsions hétéro-agressives, qui ne peuvent pas être contenus, qu'il a des problèmes de ci, de ça au niveau somatique, qu'il est, qui commence à avoir le teint pâle et compagnie, voire jeune, autant dire que là, au niveau hépatique, ça sent mauvais. Là, concrètement, moi, je dis, écoutez, là, ok, moi, je suis pas somaticien, là, je vous sens au risque vital. Pour moi, là, soit, à un moment donné, il faut aller consulter un médecin généraliste, peut-être pour aller faire des examens, mais si vraiment, à un moment donné, il y a un critère d'urgence, d'urgence, et là je parle d'urgence vraiment psychiatrique, dans le sens où l'individu il arrive à une situation qui est au-delà de sa gestion actuelle, là il faut travailler, c'est important ça, de travailler en collaboration avec des médecins, des psychiatres, d'être en cabinet pluridisciplinaire et de se dire là à un moment donné il faut travailler avec les copains et il faut se dire là il y a peut-être une hospitalisation à faire, à envoyer du coup chez la personne qui peut du coup driver sur une hospice par exemple. Ça c'est important. Par exemple, si le mec il vient en disant ben là je suis épuisé, j'ai tout perdu, j'arrive plus à rien, je fais que du sport, j'ai perdu ma copine, j'ai plus d'amis, je suis au bout, je vais en finir. Là tu vois, là moi je me pose pas de questions. Là j'évalue le risque et c'est vraiment c'est des choses très simples, ce qu'on appelle le RUD, risque, urgence, dangerosité. Tu évalues. Et là, tu te dis, est-ce qu'à un moment donné, il y a besoin d'appeler un tiers au niveau du programme thérapeutique, un médecin, un psychiatre, un endocrino, qui tu veux, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a une hospice. Mais là, on est vraiment sur la clinique. Là, je te parle vraiment de quelque chose de très clinique. Hein, voilà. Si par exemple après moi je repère quelqu'un en salle de sport, comme ça m'est déjà arrivé, qui me parle un peu, il me dit moi Jérôme là je suis sur un programme, j'ai pris la dope, je me suis pas relancé, tu vois, je vais avoir des conseils on va dire de prévalence, où je vais orienter sur les institutions légitimes à le recevoir. Mais ça dépend des situations, comme je dis, c'est vraiment individu dépendant, c'est contexte dépendant aussi.
Ok, avant de continuer sur la suite, j'aimerais juste être sûr, la bigorexie, on n'a pas exactement nommé bigorexie, on n'en a pas parlé exactement jusqu'à maintenant. Est-ce que la bigorexie, c'est la même chose que la dysmorphie musculaire, ou alors c'est une tangente particulière?
Alors c'est très intéressant ta question, parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, il y a une confusion de sens. Faut pas oublier que la définition de la bigorexie, c'est une addiction, on va dire, au sport. C'est une addiction au sport, d'une manière générique.
Ok, donc on peut avoir une dysmorphie musculaire sans forcément avoir une bigorexie.
Exactement. C'est-à-dire que après, je verrai très peu quelqu'un qui a une dysmorphie musculaire, qui a sa compensation dans le sport et qui s'inscrit dans une pratique problématique de l'activité physique, ce que je disais vis-à-vis de l'anorexie, qui se retrouve aussi dans la dysmorphie musculaire. Je le verrai très mal arrêter le sport pour réguler. Mais la question à savoir, c'est est-ce que qui de l'œuf ou de la poule? Est-ce qu'au départ, c'était une addiction au sport, qui a découlé aussi sur une forme de dysmorphie musculaire, ou est-ce que c'est la dysmorphie musculaire qui a permis après le développement, tu vois, d'une addiction au sport? Savoir aussi un peu qui l'œuf ou la poule, mais c'est un peu une question sans fin.
Donc la bigorexie, c'est une addiction au sport.
De manière générique.
On est d'accord, je casse. De manière générique. Parce que c'est pas l'inverse de l'anorexie, à savoir, la bigorexie ne serait pas une peur de ne pas être assez gros. Mais même si c'est lié, j'imagine que c'est forcément lié.
C'est vraiment, en fait, faut faire attention parce qu'il y a plusieurs types d'addictions. Tu peux avoir l'addiction à la sensation, l'addiction au mouvement, il y a plusieurs formes d'addiction. C'est compliqué parce qu'il y a énormément de littérature dessus. Tu vois, moi, j'ai beaucoup aimé un livre, je le conseille, mais là, c'est plutôt pour ceux qui sont de la branche psy ou qui ont un peu quelques bases, parce qu'il est un peu compliqué quand même. C'est Les Galériens de Volontaire, de Gérard Schweix. Il est excellent, ce livre. Enfin, moi, j'aime beaucoup la psychosomatique et cette branche-là. Et il parle bien de ces personnes qui ont une addiction au sport. Mais en fait, pour eux, il parle beaucoup des ultra-marathoniens, des mecs qui font les traversées de tel bras de mer, par exemple en voilier, en science, les skippers. Il parle beaucoup de ces gens-là, en fait, qui sont vraiment dans la recherche d'éprouver ultime, tu vois. Mais il y a des mecs qui font des marathons, d'autres qui font des Ironman, d'autres qui font des ultra-Ironman, tu vois. Enfin,
oui, non, mais c'est ça. Il n'y a pas forcément de lien avec le volume musculaire, pour le coup, sur le terme de bigorexie. Et ça me fait penser, moi, par exemple, tu parles des ultramarathoniens, de ceux qui font des grosses performances sportives. J'ai récemment lu L'Attitude Zéro de Mike Horn. Je suis en train de lire Conquérant de l'impossible. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle un aventurier de l'extrême, qui se fait des défis extrêmes, sportifs. L'Attitude Zéro, en fait, c'est qu'il a traversé, il a fait le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur, et celui que je lis, Conquérant de l'extrême, c'est qu'il fait le tour du monde en suivant la ligne polaire, je crois, je sais plus exactement le nom, j'ai la peine démarré. Donc c'est un mec comme ça qui fait des expéditions assez incroyables, il part tout seul au pôle Nord, il traverse l'Amazonie avec à pied, enfin c'est... Là, pour le coup, c'est un mec qui fait ça depuis qu'il est tout jeune, qui continue, qui a vraiment cette passion et cette irrésistible envie de toujours dépasser les limites. Lui, on pourrait le considérer comme bigorexique dans son activité, ou pas?
Je ne pourrais pas donner une pathologie sans vraiment mettre...
Non, mais sans, ouais, mais sans diagnostiquer ou quoi, mais tu vois un petit peu l'idée, est-ce que ça pourrait correspondre ou alors je n'y suis pas?
Je ne sais pas si ça peut être ça ou à une autre forme, tu vois, de... Qu'est-ce qui, chez lui, est construit dans son psychisme pour le pousser à se mettre dans ces situations aussi extrêmes? Est-ce que c'est de la bigorexie? Parce que la bigorexie, c'est vraiment l'addiction au sport, l'addiction au mouvement, à la sensation, à cette éprouvée, hein, enfin, à ces éprouvées physiques. Hein. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de s'abandonner, de partir le plus loin, de voir de quoi il est capable, tu vois? Je sais pas.
Ouais, je pense que c'est multifactoriel de ce qu'il dit souvent. En tout cas, de ce que j'ai retenu, c'est que lui, il a vraiment cette envie de vouloir dépasser ses propres limites et même un peu les limites de l'être humain.
D'accord.
Il adore faire des choses qui n'ont jamais été faites. Quand il a traversé, quand il a fait le tour du monde en suivant l'équateur, personne ne l'avait jamais fait. Quand il, pareil pour le cercle. Le cercle polaire. Par contre, pour préparer ça, il a voulu aller au atteindre le pôle Nord en solitaire, mais c'était pas le premier, ça aurait été le deuxième homme qui l'aurait fait. Et il a vraiment cette idée de vouloir faire des choses, de dépasser des choses qui n'ont pas été faites.
Je pense que j'ai peut-être une réponse intéressante pour toi et qui est hyper actualisée du coup, qui était présente. Alors, je t'en parle parce que du coup, c'était c'est la personne qui dirige mes recherches, c'est le professeur Grégory Michel, qui a travaillé en fait sur le tempérament. À savoir que le tempérament, ce que je disais, c'est que c'est biologiquement déterminé. C'est-à-dire que tu as plusieurs types de tempérament. Tu vas avoir du coup la personne qui va être ce qu'on appelle le novelty seeker, qui va avoir besoin de sensations dopaminergiques. Tu vas avoir celui qui va être regard dépendant, donc vraiment le besoin d'attribution sociale, ou vraiment de regard social. Et tu vas avoir un autre type qui va être l'évitement de la douleur. Voilà. Et il y en a un quatrième, c'est la persévération, mais c'est plus ou moins venu après. Lui, il a travaillé sur ça avec les mecs qui font du base jump. Je trouvais ses recherches très intéressantes parce que du coup, il s'est bien rendu compte que dans l'évaluation des personnes qui faisaient du base jump, on avait des profits qui c'était plus des profits de novelty seeker. C'est-à-dire qu'il t'en faut toujours plus pour trouver ton plaisir. Et là, à l'heure actuelle, ce qui est très intéressant, et là, on raccorde complètement quelque chose prépa physique. Je ne sais pas si tu regardes, mais il me semble que c'est quand même quelqu'un de chez vous, c'est Thibaudot.
Ouais, Christian Thibaudot, ouais, c'est un mec qui est extrêmement connu au Québec.
Ah, j'adore. Christian Thibaudot, enfin, moi, j'ai des références qui sont très hétérogènes, hein, mais tu vois, moi, par exemple, j'ai travaillé énormément à ma réflexion avec les entraînements de Thibaudot, de Christophe Cario, j'ai lu les livres de Benson, les fameux de Lavier et Gandhi, là, c'était des références aussi. Vraiment, bon, après, il y avait d'autres qui sont des inspirations, mais plus d'autres inspirations, tu vois. Bon, mais je pense que j'ai, comme tout le monde, j'ai mes youtubeurs préférés, hein. Il y en a que je suis vraiment pour le délire et j'aurais vraiment aimé m'entraîner avec, tu vois. Par exemple, comme From Human to God dans le délire, hein. Et d'autres qui sont très intéressants sur leur chaîne. Je pourrais pas avoir une vue exhaustive de tout, hein. Mais Nassim, moi, j'ai adoré faire une vidéo avec lui. C'est quelqu'un de très intéressant et très passionnant, hein. Je me suis régalé, hein, sur ça. Et je me régale encore en regardant certaines de ses vidéos. Mais il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pour en venir à ça, du coup, voilà, Christian Thibaudot, moi j'ai adoré son interprétation du tempérament, ce qu'il appelle les neurotypes.
Ouais, je l'avais entendu dans un de ses podcasts sur ça, ouais, les neurotypes, adapter son entraînement, son alimentation en fonction de son neurotype.
C'est ça, donc écoute, moi je le trouvais patient, enfin s'il passe par là, je lui passe mes salutations, ça serait un plaisir de discuter avec lui de la construction de sa réflexion autour de ça, hein. J'aurais vraiment aimé. Et j'ai trouvé très intéressant son approche en l'ayant un peu lu. Donc là, je pourrais pas trop te redire parce que là, je suis sur beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses. Mais en termes de, voilà, faut savoir que du coup, les neurotypes vont dépendre en fait de telle molécule dans ton cerveau qui a, on va dire, tu es prédisposé à avoir telle molécule qui vont activer ton cerveau ou telle autre molécule qui vont être en déficit. Par exemple, sur les dopaminergiques, le novelty seeker, donc la recherche de sensations. Tu vois, par exemple, moi, j'ai travaillé à un moment donné avec ça. J'ai essayé de voir un peu mon angle d'attaque à la salle, comment je pouvais aider certaines personnes en ayant un peu cette approche. Et je l'ai trouvé hyper pertinente. Déjà pour moi, je sais que j'ai un neurotype qui va demander, par exemple, une activation très longue avec des gammes d'amplification très longues pour être activé d'un point de vue neuro, parce que je sais de quel neurotype je suis. Et quand j'ai essayé de travailler avec, du coup, moi, ce que je savais en psychologie, comment je pouvais, du coup, identifier certaines personnes, et quand elles venaient me demander, par exemple, d'avoir un échauffement adapté, eh bien, je travaillais, du coup, avec moi, mes connaissances en psychologie sur le tempérament et sur ce qu'a travaillé, du coup, le directeur de recherche, et en même temps sur ce que Thibaudot a fait. Et je te promets qu'il y a une correspondance folle. Ça marche. Pour moi, ça marche à tous les coups. Et c'est très, très intéressant de voir ça. Et pour répondre, du coup, pour revenir à Mike Horn, du coup, le neurotype. Pour moi, je pense que ça peut être une réponse. C'est-à-dire que lui, je pense que c'est un mec qui a besoin de voir de la nouveauté. C'est un mec qui a besoin de se dépasser. Il a besoin de plus. Et tu le vois sur ses expéditions, la dernière, il a failli passer quand même. Et je pense que tu vois, le problème du toujours plus, c'est qu'on en a pas assez.
Ouais, c'est vrai que pour le coup, il met vraiment en risque sa santé. Bon, là au moment, sans spoiler ou quoi que ce soit, maintenant on le sait, mais dans l'expédition que je lis là, dans Conquérant de l'impossible,
la polaire.
Ouais, c'est le cercle polaire, mais juste avant en fait qu'il attaque le cercle polaire, il a voulu aller au pôle Nord en fait en passant par la Russie pour faire un petit peu s'acclimater un peu au froid et on va dire faire son premier vrai travail pour ensuite attaquer tout le ça lui sert d'entraînement. Bon, il est pas arrivé jusqu'au bout, puis il a perdu des doigts, il s'est fait amputer. Il le savait quand il est allé qu'il prenait des gros risques, il le savait et encore il a failli ne pas ne pas laisser tomber l'expédition, quoi. Il voulait vraiment aller jusqu'au pôle Nord. Il lui restait quelques dizaines ou centaines de kilomètres à marcher encore, mais après de nombreux médecins qu'il a eu au téléphone par satellite, qui l'ont dit, écoute, tes doigts là, il faut absolument que tu rentres, parce que si tu attends un peu plus, on pourra plus jamais rien récupérer. Donc tu vois, il a vraiment un gros risque pour sa santé, pour lui-même, il le sait, et pourtant il était prêt à continuer. Finalement,
ils ont besoin d'aller au-delà d'eux-mêmes. Il y en a qui ont besoin de réponses. Je comprends.
C'est ça. Je trouve ça.
J'admire totalement hein, ce que tu me dis hein, et ce qu'il a voulu faire. Hein. Mais y en a, ils ont besoin de savoir s'ils peuvent aller au-delà d'eux-mêmes. Je trouve qu'il y a rien de plus beau hein, dans une vie de se connaître soi-même et de connaître de quoi on a été fait. Moi, je suis fasciné par ceux qui font les Ironman et tout. Là, j'arrête pas d'en regarder. Je sais pas s'il y a une série. Là, je l'ai mis sur la chaîne Body Psyché sur ma chaîne. C'est une mini-série sur les Ironman, les préparations aux Ironman. Mais c'est fabuleux, les mecs, le boulot qu'ils font, l'abnégation, le travail, la périodisation d'entraînement et la préparation au jour J. Et le jour J, c'est aller au bout de soi, quoi. Oui, même se dépasser.
Je trouve ça extrêmement fascinant également. Après, l'explication un peu et la piste potentiel et même très probable des neurotypes, des comment on se comporte et où c'est qu'on va aller rechercher un peu sa satisfaction, son bonheur.
Il y a d'autres choses qui viennent par-dessus. Hein. Le tempérament, c'est une chose, mais t'as effectivement le caractère, t'as le
passé, l'expérience,
la personnalité, t'as plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, il y a un déterminisme.
Non mais c'est très intéressant, effectivement Christian Thibaudeau en parle beaucoup, il a vraiment cette approche là, j'essaierai de l'avoir sur le podcast dans le futur, j'aurais vraiment beaucoup de questions à lui poser.
Il a fait une formation dessus, bah, si tu fais une interview avec lui, n'hésite pas à m'inviter, ce serait avec plaisir.
je note ça dans un
coin. Très rapidement pour échanger avec lui. Mais sa formation sur les neurotypes était présente là, sur son site, il faisait une petite formation qui était sur un site aussi très intéressant là, de plateforme. Mais moi, j'ai trouvé que ces neurotypes et les formats d'entraînement qu'ils proposaient étaient très intéressants et pouvaient répondre aussi à un moment donné à des limites qu'avaient certains. Tu vois, moi, j'en avais beaucoup concrètement, ton entraînement, l'efficience de ton entraînement, il va aussi dépendre de quelque chose de très primordial, c'est l'échauffement, en fait. Et il y en a beaucoup qui squeeze ça et qui vont le mettre de côté et qui sont pas dans une zone d'efficience maximale d'entraînement ou qui dépassent la zone d'efficience maximale et qui vont au trauma, en fait. Et tu vois, cette limite, elle va se trouver aussi dans la compréhension de soi et de son fonctionnement. Tu vois, par exemple, il recommandait, par exemple, comme je disais, pour les dopaminergiques, d'avoir des gammes d'amplification qui vont être un peu plus longues et qui vont respecter l'activation nerveuse de l'individu pour le mettre, tu vois, vraiment dans cette zone d'efficience maximale avant d'entamer, du coup, par exemple, sa gamme de force. Tandis qu'il y en a d'autres, par exemple, ceux qui vont, par exemple, dans l'évitement de la douleur, eux, ils sont déjà stressés de base. Ils vont avoir un taux de cortisol et une activation nerveuse qui est déjà présente. Donc, si tu les fais trop pousser, tu vas les mettre dans le mal. Tu vois, si tu les fais, leur donnes des gammes d'amplification beaucoup trop longues, tu vas leur faire mal. Tu vois, c'est des choses très simples au final, mais qui, je trouve, moi, m'ont beaucoup parlé dans l'encadrement sportif que j'ai donné, en tout cas sur le site universitaire, hein, sur ça. Enfin bon, mais et je pense que il y a des réponses là à l'heure actuelle. Après, comme je te dis, je ne suis jamais vu Mike Horn, j'ai jamais parlé, j'ai vu juste des interviews. Je trouvais très intéressant son travail, son engagement. Mais pour moi, la seule réponse à l'heure actuelle, je peux t'amener sur pourquoi il fait ça. Moi, je pense que si on est vraiment d'une manière très pragmatique, des choses très simples, le neurotype. Je pense qu'au niveau du neurotype, on a une réponse. Mais je peux pas aller plus loin. Pour la bigorexie, je pense pas, mais le neurotype, c'est peut-être une réponse.
Une des premières questions que je m'étais notée, vraiment une des premières interrogations que j'avais quand j'ai préparé cet épisode, c'était de savoir, concernant ces dysmorphies musculaires, est-ce que tu penses qu'il y a une augmentation de la fréquence, on va dire ce dernier siècle, et qui pourrait être imputable à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la popularisation du fitness, on en a parlé tout à l'heure, des salles qui ouvrent, les comptes Instagram qui pullulent, le toujours plus gros, sans forcément, ça a quand même un impact, tout ce qui est l'utilisation de produits dopants qui fausse complètement ce qu'on peut atteindre de manière naturelle sans utiliser comme dope. On pourrait confirmer aujourd'hui que tout cet avènement aux réseaux sociaux et au toujours plus du fitness a contribué à augmenter la fréquence de dysmorphophobie, de dysmorphie musculaire, ou même de bigorexie peut-être aussi.
La question, elle est compliquée en fait. La réponse aussi.
Mais est-ce que tu penses qu'il y avait moins de dysmorphie il y a 15 ans, par exemple, lorsqu'il y avait zéro réseau ?
Le problème, c'est qu'on n'a pas, tu vois, enfin, ça fait quand même 4-5 ans que je suis dessus à fond. J'ai quand même un gros survol de la littérature internationale sur cette thématique précise, hein, vraiment très ciblée. À l'heure actuelle, je pourrais pas te dire la fluctuation parce qu'on a pas fait d'études tous les ans ou on n'a pas eu de très grosses cohortes tous les ans pour dire là, sur notre échantillon de population, on a tant de prévalence. Sur le même échantillon de population, on a tant de prévalence. Tu vois, et voir qu'il puisse y avoir une augmentation, une diminution. C'est dommage, hein. On aurait eu des choses très intéressantes en disant, mais regarde, là, il y a eu un influenceur qui a fait beaucoup de choses, qui a été très connu, qui a eu tel propos, ou il y a eu telle chose qui a été mise en avant cette année, au niveau de la mode, tel hashtag, tel site, tel ça. Et on aurait eu des éléments, en fait. Peut-être pas de causalité, mais on aurait dit, là, il y a des corrélations intéressantes, il y a des questions à se poser. Tu vois, on aurait pu avoir ça.
Mais ça, on est uniquement sur des stats, hein, des études un peu scientifiques, des choses ou des mesures, on va dire. Mais je peux comprendre qu'effectivement, c'est difficile de confirmer des grandes lignes. Mais toi, d'un point de vue personnel, si je te demande un peu ton avis de ce que tu ressens.
Ben, du coup, ça, je vais beaucoup parler de la façon dont moi j'ai vécu le fitness. Tu vois, j'aurais été un body qui aurait fait vraiment du body, j'aurais peut-être eu un discours différent. Donc là, ça vraiment parler de mon avis va dépendre vraiment de ma trajectoire à moi dans le sport. Mais de ce que je vois...
Bien sûr, mais t'as quand même un bon retour par rapport à ça.
Oui. Mais voilà, c'est vraiment pour dire que mon avis, là, je le construis sur quelque chose qui est une impression, hein, vraiment une impression très subjective.
Oui, bien sûr.
Mais savoir que effectivement les prévalences, on voit des fois des augmentations sur la littérature, tu vois. Mais par exemple, moi, j'avais relevé dans ma revue de littérature, j'ai publié là au sein de la Psychologie il y a 2 ans, qu'on avait entre 5,9 et 44% dans les populations étudiées, tu vois. Et moi, dans mes échantillons de population, quand je fais des études, j'ai entre 18 et 20% de prévalence, tu vois, dans les cohortes que j'ai. Ça fluctue en fonction de là où tu es. Mais moi, après, de ce que je pense sur ces dernières années, c'est qu'effectivement, on a toujours eu des égéries, des gens. Savoir que la dysmorphie musculaire, mon explication va dépendre de cette information aussi. La dysmorphie musculaire, c'est du coup vraiment la symbolique du corps masculin, musclé, viril. Bon, il y a une partie très féminine aussi qu'il faudrait aborder, hein, sur l'attribution aussi de ces critères un peu qu'on peut retrouver dans la dysmorphie musculaire chez les filles à l'heure actuelle. Est-ce qu'elles sont dans la dysmorphie musculaire? Est-ce que maintenant c'est une nouvelle entité nosographique aussi qu'il faut créer? Parce qu'avant, les bodybuilders, on trouvait qu'il y avait des bodybuilders qui souffraient de dysmorphie musculaire, mais à l'heure actuelle, tu vois, il y a l'élan fitness qu'il y a chez les filles. Ah, je me pose la question si au final, il n'y a pas une forme spécifique de dysmorphie musculaire féminine, tu vois. Ou là, c'est plus
ça serait nouveau.
Mais là, ça serait plus la finesse et ce qu'on appelle l'inès. Vraiment, la finesse et le muscle tone, vraiment le muscle galbé, tu vois. Être galbé, être fit pour les filles. Mais est-ce que c'est différent de dysmorphie musculaire?
Oui, parce qu'on sait très bien qu'il y a quelques siècles, les critères de beauté en tout cas chez les femmes c'était pas du tout d'avoir un muscle galbé, au contraire c'était de l'absence musculaire et puis plutôt d'avoir un corps bien portant, je veux dire qui mange bien, qui a des grossièrement on va dire qu'il y a des bourrelets qui dépassent, quoi. C'était ce qui était considéré comme beau, excitant et désirable.
On est vraiment sur de toute façon la beauté, on l'a toujours dit, Freud l'a dit, hein, que c'était subjectif mais que c'était quelque chose qui était très très important dans la société, hein, mais faut vraiment voir ça en termes d'évolution. Je pense que c'est plus une interprétation sociale et anthropologique, hein, dessus, mais concrètement, avec la venue des médias, la venue de l'hypermédiatisation, c'est surtout ça. On est H24 connecté, on est H24 envahi d'images. On n'était pas autant envahi d'images il y a quelques années. Et là, à l'heure actuelle, on a une pollution visuelle qui est absolument extraordinaire. Je veux dire, tu ouvres ton téléphone sur Instagram, si t'aimes un peu le sport, tu vas être spammé d'images comme ça. Là, effectivement, on le sait que plus on regarde des images de corps hyper musclés, hyper minces, sportives, en plus avec l'association des hashtags, LCI, tout ce que tu veux, plus on va être sujet à internaliser des normes déviantes. Le problème, c'est que quand tu internalises ces normes déviantes, à un moment donné, tu vas vouloir les appliquer à toi. Et le problème, c'est que tu vas de plus en plus creuser le fossé entre ton corps réel, ton corps idéal, et le corps que tu peux te donner, en fait, tu vois. Et là, le problème, c'est qu'effectivement, le fossé se creuse depuis quelques années à cause, je pense, pas, on dira quoi, ça serait réducteur, mais en lien avec l'hypermédiatisation qu'il y a à l'heure actuelle, et d'autant plus chez les jeunes personnes. À l'époque, on regardait des films de Hollywoodien,
je suis entièrement
d'accord. On regardait Rambo, on regardait Terminator, on regardait des choses comme ça, avec des Schwarzenegger ou des Stallone musclés, tu vois. On a toujours valorisé ces gens-là, dans la masculinité, dans nous, dans notre construction en tant qu'hommes. Tu vois, c'est quelque chose qui est important, mais à l'heure actuelle, les identités de genre sont complètement refondues. Donc, je trouve qu'on est sur une époque charnière qui est très intéressante en termes de construction identitaire. Tu vois, il y a un peu, à un moment donné, un flou. Je sais pas si on peut dire un flou, mais on est sur une recherche de savoir comment on peut se définir à l'heure actuelle. Il y a tellement d'identités qui émergent et tellement de profits que moi je trouve ça très intéressant, mais dire que la dysmorphie musculaire elle augmente, oui, je pense que oui, la prévalence a augmenté parce que du coup ben, on avait des gens peut-être qui avaient, comme je te disais, d'une manière prodromique, hein, c'est vraiment les premiers signes, qui avaient des formes un peu de troubles du comportement alimentaire, image du corps, on sait pas trop, et bien là le fait de trouver du fitness derrière, il y a une forme qui va dynamiquement évoluer vers quelque chose qui va s'apparenter à la dysmorphie musculaire. Ils auraient peut-être pas consulté ces médias, ils auraient peut-être pas eu ces facteurs de risque. C'est en plus, peut-être que ça serait resté sur un truc du comportement alimentaire simple, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il y a une chose.
Mais je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai aussi cet avis, hein, c'est que plus tu vas consulter... Je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de sortir de Saint-Cyr si on prend juste la base en train de se dire consulte toute la journée des physiques considérés comme enfin plus ou moins parfaits, enfin des physiques avec une telle norme où on te rabâche sans arrêt que c'est ce qui correspond à la performance, c'est ce qui correspond à l'élite, à ce qu'il faut atteindre, etc. Et effectivement, tu te fous ça en trogne que ça te crée un certain complexe parce que quand tu te vois, mais c'est dans le premier milieu.
Des gamins, enfin, je dis gamins, mais des pré-ados. Tu vois, le problème, c'est qu'il faut pas oublier qu'un adolescent, un pré-ado, il a pas cette maturité neurologique. Faut pas oublier ça. Son cerveau, il est en développement. Donc, du coup, savoir qu'il va être plutôt poussé à l'affectif plutôt qu'au raisonnement à cause du développement pas encore abouti de son, du coup, cortex préfrontal. Et c'est notamment ce qu'on va évaluer, nous, après, tu vois, au niveau de la cognition. C'est ce qu'on appelle, du coup, des métacognitions, le fait d'avoir un raisonnement, tu vois, de l'abstraction réflexive, d'avoir une vue d'ensemble. Et ça, ce sont des capacités, vraiment des cognitions vraiment supérieures. Mais ça se développe avec le préfrontal. On ne peut pas les avoir avant d'avoir cette maturité neurologique. Tu ne pourrais pas demander à un enfant, c'est pareil, la maturité neurologique, tu ne peux pas demander à un enfant à être propre à 2 mois. Ce n'est pas possible, parce que neurologiquement, ce n'est pas abouti d'un point de vue développemental. Et là, c'est la même chose. Et tu vois, chez ces adolescents pré-ados, le problème, c'est qu'ils vont être envahis d'images, ils vont être pollués d'images, qui vont leur dire, bah, regardez, ça, c'est le corps normé. Et bien, ça va résonner à l'affectif. Ils vont l'internaliser et ça va jouer. Et je pense que c'est des fabuleux leviers aussi pour vendre. On crée un besoin. Là, on est sur quelque chose de très marketing. Mais moi, je pense qu'à l'heure actuelle, effectivement, faut faire attention aussi à ces élans mode qui peuvent faire du mal et aller chercher des populations très ciblées. Et ça, faut faire attention, je pense. Faut prévenir. Tu vois, les programmes de prévention, ils n'existent pas sur la dysmorphie musculaire. Moi, je lutte pour ça. Je lutte actuellement pour ça. Pour la dysmorphie musculaire, mais au sens plus large, tu vois, dans le sport, les consommations de produits, combien il y a de gamins qui vont commander des protéines ou de la créa ou n'importe quoi, qui vont les mésutiliser. Et là, je vous recommande les recommandations de l'ANSES sur les guidelines qu'ils ont fournis. Le fait qu'il y a des posologies journalières. Le fait qu'à un moment donné, si vous avez des pathologies rénales, cardiaques ou hépatiques, il faut faire attention à ce que vous prenez. Le fait qu'au niveau du foie, on peut pas tout métaboliser. Si vous avez des médicaments, mais si vous prenez des compléments alimentaires, ça va moins bien métaboliser vos médicaments. Donc, il y a plein de choses. Il faut faire attention à plein de choses. Et ça, on les éduque pas. Tu vois, moi, j'aurais milité pour pouvoir, à un moment donné, leur donner ces guidelines-là. Il y a plein de youtubeurs qui font des choses fabuleuses, mais je pense qu'il y a plein d'influenceurs aussi qui en profitent un peu. Et ça, tu vois, moi, j'ai un peu peur des fois de ça. Tu vois, de profiter de cette.
Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. Enfin, comme je le répète, évidemment, c'est sûr que l'avènement des réseaux et de la mise en image accessible H24 tout le temps, et même quand tu veux pas forcément le voir, on te renvoie à l'image ces corps ultra bodybuildés pour les mecs, ou alors ultra fit pour les femmes. Mais bon, c'est le cas dans le milieu artistique aussi, chez les acteurs, les actrices, dans la mode, le maquillage, le mannequinat, j'imagine aussi. Et peut-être,
pense qu'on sera tous plus ou moins d'accord avec ça, hein. Je veux dire, on te soumet des images constamment, ça te change un peu ta perception. Et peut-être pour pousser la réflexion un petit peu plus loin, tu vois, moi, c'est des choses que je me disais, sans vouloir me mettre à dos qui que ce soit, et encore une fois, je vais rien affirmer, ça va peut-être être un sujet de réflexion future, mais est-ce que, par exemple, si on prend une fit girl lambda, qui montrerait donc ses exploits, qui aurait la génétique pour montrer qu'elle a un corps extrêmement fit, elle fait des exercices, etc. Elle participe un peu à cette élite que toutes les filles voudraient atteindre, tu vois, enfin les formes classiques. Et si tu veux, sous un discours un petit peu, alors je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, attention, encore une fois, c'est des réflexions, je pousse à la réflexion et à se demander, sous un discours un petit peu la femme libre, on se détache des standards, on fait ce qu'on veut, mon corps m'appartient, et je répète encore une fois, c'est pas une attaque contre le féminisme particulier ou quoi, mais un peu cette idée de le corps m'appartient, etc. Est-ce que en voulant donner ce discours de les femmes faites ce que vous voulez, finalement, leur image et ce qu'elle renvoie d'un point de vue psychologique est complètement à l'opposé, à savoir, je suis le standard, si vous n'êtes pas comme moi, vous serez malheureuse, et ça renvoie à des filles, à des femmes qui n'ont pas ce corps, qui se rendent compte qu'elles ont plein de défauts, elles se disent, ok, en fait, oui, le corps m'appartient, etc., mais en même temps, pendant qu'on me dit ça, pendant qu'on me dit que je dois être libre, et que la femme fait ce qu'elle veut, d'un autre côté, on est en train de me marteler le visage comme quoi il faut que je sois fit. Et du coup, où c'est que se trouve le libre arbitre dans un sens, tu vois, je veux dire, c'est hyper compliqué comme truc, parce que c'est, oui, je fais ce que je veux, mon corps m'appartient, et je me détache de tous les standards, mais en même temps, inconsciemment, on me fout dans la tête à chaque fois que j'ouvre mon fil Instagram que je dois être comme ça, et que si je suis pas comme ça, je vaux pas le coup. Tu vois un peu ce que je veux dire?
Écoute, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, moi, ça me fait penser à pas mal de personnes, hein, qui ont avoué, par exemple, se doper. Donc, que ça soit homme ou femme confondu, hein. Des gens qui te disaient, moi, je suis nati, des gens qui ont fait des tours à l'hôpital en te disant qu'ils avaient une mauvaise fièvre, alors que c'était sans doute une mésutilisation du DMP, avec associé à des stéroïdes anabolisants, des gens qui tournaient full trembo, équipoise, testo, par exemple, hormone de croissance, et qui te disent full nati, et que derrière, on te dit, regardez, moi, j'ai juste ce programme de muscu traditionnel, si vous voulez prendre de la masse, faites le même programme que moi. Nati, vous allez arriver, alors que les mecs, ils étaient chargés comme des moulets. Pareil pour des nanas qui tournent avec des molécules, hein, des molécules qui sont peut-être un peu moins fortes que celles des hommes, comme la navarre, des choses comme ça, des molécules de pain, sur une anabolisante, du coup, plutôt utilisées chez les filles, et qui vont dire, regardez, moi, avec mon programme, je peux avoir ça, et puis je suis heureuse. Et c'est totalement faux, parce que moi, tu vois, il y a eu un effet très intéressant. Et je rebondis sur un truc aussi, parce que je suis en correspondance. J'ai commencé une correspondance à quelqu'un, il faut que je lui réponde en plus. Mais ce qui était intéressant, tu vois, c'est qu'après la vidéo de Nassim, j'ai eu pas mal de monde qui m'a contacté, du coup, sur les réseaux sociaux, donc sur mon Instagram là, de Body Psyché, ou sur du coup le site, et avec qui j'ai beaucoup discuté, notamment certains, tu vois, c'est pas des gros influenceurs ou des grosses influenceuses, mais des gens, tu vois, qui ont plusieurs dizaines de milliers de personnes en followers, quoi, entre 10 et 500 000, c'est pas négligeable, tu vois. Et on discutait, ils me disaient, ben oui, mais on vend aussi une facette qui est hyper hyper joviale, hyper heureuse, mais derrière, on est aussi très en plein, c'est très très sujet en fait au doute, au questionnement et au mal-être, le fait de ne pas être assez bien. Ce sont des gens comme tout le monde, mais effectivement, qu'est-ce que certains mettent en avant dans cette vitrine numérique? On peut beaucoup contrôler l'image. Faut pas oublier que moi j'appelle ça des photos dopées. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui mettent des photos qui sont prises par des photographes professionnels, photoshopées, et en plus qui ont derrière l'utilisation de produits ou des professionnels qui les suivent pour avoir une rigoureuse planification d'entraînement. Donc après, vendre effectivement le fait que c'est nati et qu'on peut y arriver avec un programme simple à 20 euros, effectivement, derrière, je pense que ça peut être un peu... tu vois, sur un adolescent qui va être mal dans sa peau et qui va être sujet, du coup, à cette impulsivité à cause, ben, du coup, du fait qu'il est un peu immature et qui va vouloir acheter, consommer facilement parce que, du coup, ben, derrière, il n'y a pas la retenue à cause du coup, de son immaturité, on va dire, cognitive. Et ben, du coup, je pense que, tu vois, là c'est un peu un jeu bébête, quoi. Mais, tu vois, il y a une influenceuse qui a mis une publication qui était très intéressante et je vous recommande d'aller la suivre, elle fait des trucs sympas. C'est Roman Kov, qui a fait une publication sur la dysmorphophobie. Alors, pas la dysmorphobie, pas la dysmorphie musculaire, mais sur la dysmorphophobie. Elle a fait une publication dessus, c'était assez intéressant, où elle explique effectivement que même si ce sont des influenceurs, des influenceuses, ça n'empêche pas qu'ils restent humains comme tout le monde et qu'ils sont sujets à avoir les mêmes problèmes que nous au quotidien. Et ce qu'on oublie souvent, hein, on est un peu dans l'idéalisation, hein, tu vois, des influenceurs, des influenceuses.
Mais parce qu'a priori, ça vend pas, ça. Ça vend pas autant. Mais moi je dirais que l'honnêteté vend
mieux. Mais oui, parce que toi et moi, on va avoir cette réflexion en disant, mais moi, je préfère suivre quelqu'un qui est honnête et qui va avoir une maturité sur ses problèmes de vie en disant, moi, j'y suis passé, je te dis honnêtement comment je m'en suis sorti, il y a plein d'autres façons de s'en sortir. Moi, je m'en suis sorti comme ça, ou moi, je galère sur ça, donc je pourrais t'aider ou je pourrais pas t'aider sur ça. Moi, je préfère aller vers quelqu'un qui est honnête envers lui-même que plutôt quelqu'un qui me dit, moi, je suis un dieu, je suis parfait, je n'ai aucun problème, tu vois, et j'y arrive facilement. C'est pas possible. Là, tu sais qu'il y a quelque chose qui est pas honnête. Ben, moi, j'apprécie l'honnêteté, tu vois, sur ça. Et puis, nous, on est formés, les psys aussi, tu vois. Alors, je sais pas après vous, en kiné, en ostéo, si vous avez ces fonctionnements-là, mais, par exemple, moi, je fais beaucoup de supervision. Dès que j'ai un doute, dès que j'ai des questionnements, ou même sur moi, j'ai fait un travail sur moi. Et aussi, tu vois, des fois, je mène un travail personnel en ce qu'on appelle en supervision, en intervision. C'est là, ok, j'ai ce cas-là. Là, j'ai douté de moi. Ou là, en ce moment, je traverse cette difficulté. J'ai du mal avec telle problématique, comment faire, tu vois. Donc, bon, au bout d'un moment, quand t'as guéri la bouteille, tu te dis, bon, là, ok, je connais la solution, mais ça arrive certaines fois où tu as besoin de réfléchir les choses, d'être humble envers toi-même aussi, tu vois. Et là, quand tu vois effectivement des personnes qui te disent que nos soucis, ils peuvent tout faire, et puis ils peuvent tout te vendre, moi, je sais pas tout faire, et heureusement.
Ouais, bon, et pour assurer peut-être, s'il y a des influenceurs qui vont écouter ce podcast et qui se reconnaissent un peu dans l'idée de partager du contenu un peu trop parfait et qui ont peur de peut-être se montrer sur leur vrai visage, il y a quand même un principe en psychologie qui est que si tu montres tes faiblesses ou ta difficulté, tu es enclin à générer de l'empathie, de la sympathie des gens. Et c'est pas parce que tu dis... que t'as ce problème ou que t'es honnête sur tes difficultés, que tu veux pas tout le temps renvoyer une image parfaite. Le fait de faire ça, enfin le fait de montrer tes faiblesses en fait, va créer de l'empathie aussi sur ton audience, sur ton public. Alors en plus d'être honnête, je veux dire, t'es...
Après, tu vois, je me situe plus dans cette interprétation là. C'est plutôt quelque chose de plus sociologique, mais là on se situe dans le fitness, dans le fit game, vraiment, pour utiliser le mot. Là, c'est un milieu de requin, et je me dis, effectivement, moi, j'ai pas pour objectif d'être influenceur ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon truc, mais ceux qui veulent vivre de ça, je me dis que si à un moment donné, ils montrent des faiblesses ou de la vulnérabilité, est-ce que les gens, ils vont pas taper dedans?
Mais peut-être est-ce que, justement, quand tu as avoué ta propre faiblesse, on ne peut plus t'attaquer dessus, tu vois, c'est un peu des principes, ça me fait penser à le film 8 Mile, à la fin, il prend le micro, il dit exactement tout ce sur quoi son adversaire pourrait l'attaquer, et à la fin le mec il a plus rien à dire parce qu'en fait il a tout dit sur lui-même, et puis il a amené d'une façon extraordinaire qui fait que ça laisse bouche bée son adversaire. Est-ce que pour par exemple les influenceurs fitness, le fait de donner leur faiblesse, leur authenticité un petit peu, ne va pas les démarquer de tous ces vendeurs de rêves, et en même temps empêcher les autres de les attaquer sur des points, parce que ben ouais mec, je veux dire, tu peux dire tout ce que tu veux, mais je l'ai déjà dit moi-même, je l'avoue. Ça peut être aussi une stratégie marketing qui, je trouve, est un peu plus honnête.
Il y a un mouvement social qui est très intéressant, et moi je trouve qu'il est arrivé un peu trop tard, mais qui est là quand même, c'est la protection contre le harcèlement numérique. Enfin c'est là, tu vois. Et là je me dis qu'effectivement ces gens-là qui à l'heure actuelle avouent leur faiblesse, ils peuvent se faire harceler aussi. Comme je te dis, à un moment donné, quand il y en a qui baissent le bouclier, il y en a qui attendent pour mettre des mandales. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais là, à l'heure actuelle, tu vois, le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui est vu négativement. Donc, si à un moment donné, ils montrent une faiblesse, est-ce que à l'heure actuelle, dans cette société d'aujourd'hui qui a mis en place des systèmes contre le harcèlement numérique, est-ce qu'ils vont pas être protégés? Est-ce que c'est pas vu aussi mal vu socialement de s'en prendre à quelqu'un qui est vulnérable, tu vois? Moi, je trouve qu'en ce moment, c'est quelque chose qui est actualisé, et heureusement que c'est arrivé, parce que ça a fait beaucoup de mal. J'intervenais avec le conseil régional en collège et lycée. Je faisais de la prévention. Et je te raconte pas le nombre de fois où des adolescents sont venus nous voir en nous disant Ça, c'était vraiment les interactions en classe, quoi. Et une nombre de fois qu'on nous a dit, ouais, ben lui, il y a une photo qui a tourné, du coup, il est mal parce que du coup, il y a un moment de faiblesse. Il y en a un, il a dit ça, tout le monde l'a harcelé. Ou on a fait un groupe snap et puis on l'a harcelé. Et où j'ai été harcelé parce qu'ils ont fait un groupe snap, ils ont commencé à mettre des photos de moi, des photos montées. Je pense que les gens se rendent pas compte de la trace que ça laisse chez un individu au niveau de sa construction identitaire, et c'est un des déterminants de la dysmorphie musculaire, les brimades à l'adolescence, et c'est un point commun avec les troubles du comportement alimentaire et l'image du corps. La dysmorphie musculaire, elle se construit, savoir que ton elle s'étaye énormément, on va dire, son développement sur l'estime de soi. Sauf que l'estime de soi, ça se construit dans le positif, dans le feedback positif que tu vas avoir. Tu fais quelque chose, t'as un feedback positif, la gratification de tes proches, de tes parents, de tes amis. Là, tu construis une estime de soi qui est positive, qui est solide. Sauf que le problème, c'est que concrètement, si à un moment donné, on n'arrête pas de te dire que t'es grand, trop mince, trop gros, trop petit, trop ci, trop ça, à un moment donné, tu vas intégrer du négatif en toi. Et là, effectivement, ça laisse la porte ouverte au développement de pathologies qu'on appelle les body image disorder, donc au sens large, les troubles de l'image du corps, ou les troubles du comportement alimentaire, ou de toute autre pathologie. Comme je disais, c'est dynamique. Le psychisme est dynamique. Il va trouver à un moment donné, en fonction de l'histoire de vie et de l'environnement qu'il a à sa disposition, de quoi exprimer une pathologie déterminée. Et c'est pour ça qu'on pourrait pas avoir des modèles prédictifs à 100%, parce que ça va toujours être individu dépendant, environnement dépendant. Il y a toujours un système, on va dire, un peu biopsychosocial. Ce que tu es en toi au niveau somatique, la construction de ton psychisme, mais aussi ce que tu rencontres dans l'environnement. Donc ça, le harcèlement, tu vois, moi je suis vraiment vraiment opposé dessus à ce que les gens puissent agir en toute impunité. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce mouvement-là a peut-être fait du bien aux gens qui sont passés aux aveux. Il y a un mouvement quand même dans le body d'aveux hein, qui s'est lancé depuis 2-3 ans. Il y a beaucoup qui ont fait des vidéos confession, je me suis dopé, j'ai fait ci, j'ai fait ça.
Bon, on pourra reprocher à certains peut-être de jouer sur cette nouvelle mode pour ramener de l'audience, mais bon, à la limite...
Je suis pas dans la com, donc je pourrais pas avoir une analyse fine de ça.
Mais bon, on va dire que c'est plus, enfin, je trouverais ça plus acceptable, c'est plus honnête d'essayer de faire du buzz ou de l'audience en expliquant qu'on a utilisé des stéroïdes et puis qu'on le regrette et puis qu'on explique, enfin, qu'on essaye de faire de la prévention, que les gens essayent de pas vendre du rêve, plutôt que d'attirer des âmes en peine. En leur expliquant qu'ils vont pouvoir atteindre n'importe quel résultat alors que soi-même on est dopé et qu'on le dit pas. Et ce qui me permet de rebondir sur l'utilisation de produits dopants. Donc si on reste sur le milieu de la musculation, du fitness, les produits dopants essentiellement sont des stéroïdes anabolisants qui vont permettre d'augmenter la masse musculaire. Ça va être une des conséquences finalement. On va peut-être pas parler de ceux qui font des compètes, de ceux qui ont le pour, le contre, enfin les côtés positifs et les côtés négatifs. Ils connaissent tout et en fait ils prennent une décision par rapport à un objectif qui va être une compétition. Et ils prennent une décision par rapport à ça. On va peut-être parler du sportif amateur, de celui qui va en salle, qui a pas tant d'objectifs de compétition, qui connaît pas vraiment tous les aspects négatifs et positifs, et qui veut le faire parce qu'il veut augmenter ses résultats, etc. Donc là, on est peut-être sur une conséquence d'une dysmorphie, plus ou moins. Donc déjà, est-ce que tu confirmes ça dans un sens ?
Pour l'individu qui va... Alors... Je pense qu'il faut reprendre vraiment la définition de la dysmorphie musculaire parce que c'est ce qui avait été un peu reproché sur la vidéo avec Nassim. Pourtant, on l'a bien expliqué à plusieurs minutes, hein, précise, mais vraiment, la dysmorphie musculaire, comme je disais au départ, c'est vraiment faut vraiment le voir comme la pathologie identifiée. C'est-à-dire qu'on peut mesurer, quantifier, diagnostiquer sur le fait que l'individu pense qu'il n'est pas assez musclé d'une manière spécifique sur un groupe musculaire ou de manière générale, ça va générer une détresse vraiment clinique significative, c'est-à-dire de l'angoisse, de la dépression, ça va générer aussi peut-être des passages à l'acte, une pratique problématique de l'activité physique, donc c'est-à-dire une mauvaise pratique du sport, parce que le sport n'est pas pathologique, c'est l'individu qui pratique, qui le rend pathologique. Faut pas oublier, c'est l'outil, il est pas pathologique, c'est l'utilisation, c'est l'utilisateur qui en fait quelque chose de délétère. Et que du coup, derrière, on peut pas attribuer cette souffrance à quelque chose d'autre, à une autre pathologie, à une autre consommation. Donc, on va avoir après toute une constellation de problèmes qui vont se rajouter dessus. Il peut y avoir des comorbidités, c'est-à-dire des pathologies associées, comme par exemple, effectivement, l'addiction au sport, la consommation de stéroïdes anabolisants, l'addiction aussi aux stéroïdes anabolisants, un rythme de vie qui va effectivement va dire, détacher l'individu d'un fonctionnement social adapté, voir ses amis, le resto avec ses amis, avoir une copine, eh ben non, tout ça, ça va être complètement squeezé, mis en second plan pour effectivement vraiment pratiquer au plus près de son objectif. Et là, effectivement, l'objectif du sport, c'est plus bien-être, c'est la régulation du poids. Comme chez l'anorexique, ça va être la régulation du poids. Sauf que l'anorexique régule vraiment la masse grasse, la masse musculaire, peu importe, du moment qu'on voit le plus possible le dessin de la forme squelettique, hein, presque, hein, qu'on s'y reproche. Là, le body, lui, il veut plus de masse graisseuse et que de la masse musculaire. Tu vois, on est sur, c'est pour ça qu'on l'appelait réverse anorexie, hein, la dysmorphie musculaire à la base. Mais tu vois que le sport, la pratique problématique du sport qu'on retrouve, du coup, chez les anorexiques, on le retrouve aussi dans la dysmorphie musculaire. Donc vraiment, la dysmorphie musculaire, faut bien la redéfinir avant de vraiment l'avoir chez les individus. Et voir vraiment que l'individu qui en souffre, il y a une forme vraiment caractéristiques. On peut voir des formes prodromiques, comme je disais, peut-être à l'adolescence, parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce que ça apparaît, si ce n'est que effectivement, ben, on sait que il y a des traces, il y a des leviers qui vont amener à développer la dysmorphie musculaire sur une forme adulte. Mais au final, on n'a que des outils pour évaluer les formes adultes. On n'a pas des outils pour évaluer les formes ados et enfants. Donc vraiment, il faut voir ça comme ça. Voilà. Et du coup, pour le voir chez quelqu'un en salle, c'était bien ta question.
Ouais, c'était de se dire que l'utilisation de stéroïdes d'anabolisant chez quelqu'un qui fait pas de compète ou quoi, peut être un signe ou une conséquence de quelqu'un qui souffrirait de dysmorphie musculaire, en fait. Parce que c'est mettre en danger sa santé quand la personne n'a pas nécessairement toutes les informations, elle va y aller un peu à tâtons, et elle va prendre des risques pour sa santé. Puis même des fois, elle va en avoir conscience. Oui, je sais que je risque de développer de l'acné. Oui, je sais que je peux dérégler complètement mon axe hormonal. Mais je le fais quand même. Pour quelle raison? Pour prendre du muscle, parce que je me sens pas bien, alors que derrière, il n'y a pas d'objectif hors que ça, quoi, que résoudre ce problème dit d'image de soi.
C'est compliqué, parce que d'un côté, je suis un professionnel de santé, je peux pas dire, écoute, si à un moment donné, ça lui fait du bien de faire une cure une fois dans sa vie, d'avoir une shape de fou et d'être heureux et que ça résolve tous ses problèmes, qu'il le fasse. Je peux pas dire ça.
Mais est-ce que tu crois que ça peut, réellement?
Je sais pas. Moi, j'ai déjà vu des gens avec qui je poussais, hein, des partenaires d'entraînement, ou même après des jeunes, j'ai déjà vu des gens se lancer à fond à un moment donné dans le body parce qu'il y avait besoin d'obtenir quelque chose. Parce que c'était temporellement dont ils avaient besoin. Temporellement, tu vois. Ils sont au passage à la fac, ils sont sur, à un moment donné, faut pas oublier que la dysmorphie musculaire, elle a été aussi travaillée sur le regard social du sexe opposé. Tu vois, le fait d'être attirant, de se sentir attirant et désirable. Et ça, la musculature fait qu'à un moment donné, on attribue effectivement à la musculature la construction de la masculinité de l'homme. Donc c'est important aussi, hein, de sentir, on est toujours très homme, hein. Ça me dérange un peu des fois de pas parler de ce côté plutôt féminin, mais effectivement, il y a encore un flou. Je vais peut-être m'employer à faire ça sur mes prochaines recherches, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai pas squeezé dans mes cohortes, hein. Je suis en train de le travailler. Mais concrètement, ouais, c'est la réponse, elle est compliquée, hein, parce que effectivement, quelqu'un qui se dope, comme je disais, oui, moi j'ai vu, hein, des gens qui se lançaient à fond temporellement, comme je disais, c'était vraiment le but, et qui ont fait une compète ou deux, et qui ont arrêté, qui ont dit c'est bon, j'ai trouvé ce que je cherchais, j'ai fait un podium, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça me suffit, ça m'a coûté, j'ai compris ce que ça m'a coûté. Ça m'a coûté cher en termes financiers, ça m'a coûté cher sur ma vie intime, sur ci, sur ça. J'arrête. Juste ce que j'ai vu. Voilà. Tu vois, c'est comme il y en a certains qui se disent, dans ma vie, je veux faire un marathon. Dans ma vie, je veux voir une fois ça. Dans ma vie, je veux faire une... Mais il y en a, ils ont besoin d'aller chercher quelque chose à un moment donné. S'ils trouvent ce qu'ils cherchent, super. Par contre, moi, j'ai toujours peur, et je mets toujours en garde des jeunes quand ils me disent, ouais, je veux passer aux deux pages, ou qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que je pourrais prendre ça? Moi, je dis toujours, concrètement, je peux pas te dire oui ou non, parce que si je leur dis non, je sais très bien qu'il va y avoir l'effet opposé, ils vont vouloir le prendre. Ça, c'est l'effet coercitif, il a toujours l'effet inverse. Il est libre de faire ce qu'il veut, c'est un individu, il fait ce qu'il veut. Par contre, moi, je mets toujours en garde, je fais, par contre, voilà. Si tu décides de le faire, fais-le intelligemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu le fais pour pas te respecter, ça sert à rien de le faire. Parce que là, si c'est pour, concrètement te faire du mal, et là, il faut te l'avouer que tu veux te faire du mal. Par contre, si tu as un objectif construit derrière, écoute, qui je suis pour te dire non? J'ai pas à te dire non. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Tu es un individu avec un libre arbitre. Par contre, il va y avoir des conséquences. Et ça, il faut que tu sois averti. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu prends telle molécule qui a, alors, il y a un livre qui est intéressant qui s'appelle Anabolix, pour les professionnels de santé, qui aura une liste de tous les stéroïdes anabolisants et toutes les hormones dopantes. Et dedans, il y a des axes.
Tu m'avais donné la référence, je m'en souviens, la dernière fois qu'on avait discuté. Et c'est extrêmement intéressant, justement, parce que ça permet, à ce moment-là, d'aborder peut-être les conséquences des produits et d'un point de vue psychologique. Ce serait peut-être intéressant de l'évoquer, là, tu vois.
Dans la pratique du dopage, c'est des gens qui vont à un moment donné se faire des injections intramusculaires. Donc, intramusculaires pour les stéroïdes anabolisants. Et ou si, en plus, ils cumulent l'hormone de croissance, elle va s'injecter en sous-cutané avec l'insuline. Donc, à un moment donné, ça veut dire que si on respecte pas, notamment pour l'intramusculaire, des règles d'asepsie, c'est la septicémie assurée, c'est la gangrène, quoi. Il y en a un, je sais qu'on m'a raconté une histoire, j'y étais pas, je peux pas te dire, mais tu vois, c'était un des collègues qui s'entraînait à Montpellier. Il y en a un qui s'est dopé, sauf qu'il s'est loupé, il s'est fait une infection sur la jambe, il a failli perdre sa jambe. Et tu vois, dans Anabolix, savoir que les Américains avaient fait des campagnes pour les bodies, tu vois, c'est au lieu de leur dire vous avez pas le droit, c'est pas bien et compagnie, et bien, quoi qu'il arrive, même si on leur dit non, ils vont consommer, ils vont le faire, quoi qu'il arrive. Tu peux pas, les gens vont aller dire bon, arbitre, même si tu leur interdis, ils vont le faire. Et bien du coup, ils ont dit, ben on va leur apprendre à bien le faire. Ceux qui veulent vraiment le faire, autant les protéger de ce passage à l'acte. Donc ils avaient fait des livrets pour apprendre à se piquer carrément, tu vois. Donc du coup, au moins, ils avaient des règles d'asepsie. Et le fait de pas s'échanger les soins, parce qu'en plus, c'était des campagnes qui dataient un peu, mais tu vois, c'était un peu à l'époque des tout ce qui était VIH et compagnie. Donc ceux qui se refilaient les soins, autant dire que là, ben concrètement, en période du coup, de quand ça avait pété au VIH dans les années 80, ouais, autant te dire qu'il y avait pas
de ça. Mais ça, de filer un protocole comme ça pour expliquer comment utiliser une seringue, est-ce que ça incite pas certains qui, par exemple, leur seule objection de passer à l'action, leur frein unique, ça aurait été de ben, « j'ai peur de mal faire, quand même se piquer, etc. » Et là, on leur met sur un plateau, voilà comment on fait, « oh ben merci, finalement, je teste. »
Tu vois, on a les mêmes réflexions avec les salles de shoot. Est-ce que ça va pousser les gens à consommer? Tu vois, c'est, j'ai pas de réponse à te donner sur ça, hein, mais moi, je pars du principe que l'individu, on a une vie sur Terre, et il fait des choix, et à un moment donné, il y a des choses qui sont interdites par la loi. S'il décide de
faire. On a chacun son libre arbitre.
Hein. Exactement. Si à un moment donné, il décide d'avoir une expérience qui lui appartient, qu'il le fasse au moins en se mettant en sécurité. Écoute, il y en a qui ont envie de traverser une intersection au feu rouge en fermant les yeux, pour se sentir vivant, écoute, ils le font.
Mais c'est très très complexe tout ça, parce que moi je suis partisan aussi là de l'idée du libre arbitre, de chacun fait ses choix, mais c'est quand même extrêmement complexe, parce que à partir de quand, je veux dire, il y a de l'influence depuis des années, en fonction de son parcours, de ce qu'on a vécu, de qui on a rencontré, et à un moment donné, est-ce que le libre arbitre il existe vraiment, ou alors est-ce que c'est juste un amas d'expériences et de feedback sans arrêt qui fait que t'as pris cette décision? C'est un peu comme on le voit en politique, les gens sont absolument et c'est pas un reproche, mais les gens sont absolument certains de voter pour leurs idées, ils sont certains que c'est cette idée qui est bonne, etc. Mais est-ce que c'est pas des années de matraquage médiatique sur un sujet? Est-ce que c'est pas de la manipulation de masse à un moment donné? Il y a des statistiques, des choses qui le prouvent. C'est difficile.
Tu vois, quand quelqu'un me parle de dopage ou qu'il va passer à l'acte, moi je fais pas du paternalisme, ça sert à rien. Je suis là pour de la prévention santé. Moi je donne des infos. Si à un moment donné les gens ils ont envie de prendre des risques, je peux pas leur interdire. Ça sert, comme je dis, ça servirait à rien. On aurait la fin inverse. Par contre, je leur dis bien. Tu vois, je les mets bien en garde. Et je les fais réfléchir à ça. Mais pourquoi tu as besoin d'avoir quelque chose de plus? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment être nécessaire? Est-ce que ça vaut le coup de jouer à la roulette russe aussi avec ton corps? Parce que du coup, tu sais qu'à un moment donné, tu peux tout perdre. C'est-à-dire que concrètement, tu fais une mauvaise réaction au produit, tu claques, tu te piques à un moment donné dans un vaisseau, une artériole, tu fais une embolie pulmonaire, tu claques, tu te surcharges trop, ton corps répond pas bien, et là tu fais tu développes du coup un cancer, tout ce que tu veux, mais là tu claques. Est-ce que ça a valu le coup d'avoir un super corps pendant quelques mois pour claquer après, par exemple? Il faut vraiment mettre l'individu face à ses responsabilités. Tu es un individu à part entière.
Ouais, faut qu'il fasse le choix, en tout cas, en ayant connaissance de tout l'ensemble, de tout le spectre.
Exactement.
Des conséquences
possibles.
Exactement.
Moi, je mets vraiment les individus face à leur choix et à ce qui, surtout, comme tu le dis, comme en politique, qu'est-ce qui a pu déterminer ce choix? Est-ce que tu penses vraiment qu'en prenant des stéroïdes anabolisants, par exemple, je sais pas, il y en a un qui avait pris de la Trembo parce que en cachet, parce qu'il sentait qu'il avait besoin d'être plus fort. Et je lui dis, mais est-ce que tu penses que ça va te rendre plus fort? Est-ce que ça va vraiment te protéger de des gens à l'extérieur? Ils étaient persuadés que du coup, il fallait être le plus fort dans une bagarre pour survivre. Donc, il montait dans un bus, il montait quelque part, il allait regarder, tu vois, s'il était plus balèze. Tu dis, mais est-ce que concrètement, c'est quelque chose, tu te défends de quelque chose de l'actuel ou est-ce que tu te défends de quelque chose du passé? Et là, souvent,
quels seraient les troubles psychologiques possibles après une cure? Par exemple, quelqu'un qui n'a pas, enfin, qui pourrait apparaître après utilisation d'un produit, on fait un cycle, la personne termine son cycle, et là, il y a des nouveaux troubles, des nouveaux problèmes psychologiques qui apparaissent. Est-ce que c'est possible?
Alors, je ne sais pas si on peut dire des nouveaux troubles. Par contre, il y avait une métaphore de Freud sur ça, que je trouvais très intéressante. C'est un cristal. Je ne sais pas si tu as déjà regardé un cristal de roche. Et tu vois, en fait, quand tu regardes le cristal, tu vois dedans qu'il y a des cassures, il y a des failles. Tu vois, des petites failles. Si tu laisses tomber ce cristal, est-ce que tu vas créer de nouvelles failles ou est-ce qu'elles vont casser aussi aux failles dans lesquelles il y avait dans le cristal? Eh bien, en fait, concrètement, tu vois, ça va casser à l'endroit où va y avoir une fragilité.
Ouais, je vois. Ouais, ça va révéler quelque chose et pas forcément créer une nouvelle.
Ça va révéler quelque chose. Et comme je te dis, en fait, il ne faut pas oublier qu'un individu a une dynamique psychique et que cette dynamique, elle va évoluer en fonction des failles préexistantes. Et ça peut aussi créer de nouvelles failles hein, à d'autres endroits. Hein. Tu vois, des fois, on est sur des individus en milieu de vie, en début de vie. Il va y avoir un épisode, il va y avoir un événement qui fait qu'à un moment donné, ça peut précipiter quelque chose qui n'est pas, on va dire, juste d'un conflit psychique, mais quelque chose qui va s'orienter plutôt même sur la psychiatrie, tu vois. Alors que les individus n'étaient pas forcément prédisposés, tu vois. Donc, les effets, ils vont être multiples. Ils vont être multiples dans le sens où faut pas oublier que le dopage, et moi je le mets toujours en garde sur ça, c'est qu'il y a une triple addiction qui se génère derrière. Et moi je l'ai remarqué chez les gens, tu vois, pour qui j'avais dit écoute voilà, tu veux passer à l'acte tant mieux, tant pis, c'est ton histoire de vie qui voilà, on avait discuté, tu vois, chez des jeunes qui voulaient passer à l'acte, tu vois, je peux pas les balancer, j'ai pas ce rôle là quoi. Par contre, voilà, j'avais tout fait pour les mettre en garde, mais écoute, ils sont passés, hein. Mais je leur avais bien expliqué, je l'avais constaté, moi, sur ça, et notamment sur des consultations de body et tout comme ça, qu'il y a un effet de triple addiction. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas avoir un effet d'addiction endogène, c'est-à-dire que le corps, il va, à un moment donné, dire, ok, mais moi, on m'amène cette supplémentation de manière exogène, bah, j'arrête la production endogène, tout simplement. Et il y a un effet de désensibilisation de certaines cellules qui fait qu'elles ne vont plus produire, du coup, de testostérone. À cause aussi de la baisse, du coup, de LH, tout ce qu'il va y avoir derrière. C'est pour ça qu'après les body en relance, ils fonctionnent avec des hormones féminisantes. Il va y avoir un effet de rétroaction négative qui va sécréter, du coup, des hormones masculinisantes. Donc voilà. Mais savoir que le corps, à un moment donné, il se dit, bah, écoute, au moins, on m'amène l'exogène. Au niveau homéostasie, c'est pas respecté. J'arrête l'apport endogène. Donc en fait, tu vas dépendre de ton apport exogène. Donc c'est ça l'addiction du coup du corps. C'est une addiction du coup vraiment endogène du corps qui a besoin de cette production extérieure parce qu'il en produit plus. Donc ça c'est important et la relance en fait elle ne peut pas fonctionner sans une relance et sans une prise en charge endocrino. Alors il y en a qui se relancent naturellement, ça peut mettre. Il y avait des études qui disaient c'est entre 6 et 7 mois pour la reproduction de LH où ça revient à peu près à un seuil à peu près normal, tu vois. Et ça, c'est encore individu dépendant. On n'est pas sur des grosses cohortes, on est sur des petites cohortes. Tu peux pas faire ça sur n'importe qui. Vous avez fait une étude sur le dopage avec de la testostérone énantate sur 6 semaines sur un programme de force sur plusieurs groupes. Un groupe musculation, un groupe du coup, un groupe... là, c'est un groupe muscu. Ah, je faudrait que je retrouve le papier, je te le donnerai. Un groupe contrôle, et bien, du coup, même le groupe contrôle prenait de la masse et tout. Mais tu vois, ces études-là, on pourrait plus les faire sur une question sanitaire et éthique. Après, du coup, voilà, cette triple addiction, tu as aussi une addiction à l'image du corps. C'est-à-dire que concrètement, tu vas avoir un corps qui va être optimisé. Tu vas être au meilleur rendement que tu n'aurais jamais pu avoir d'une manière physiologique. Donc, du coup, tu vas te sentir séduit, en fait, par l'image que tu vas avoir de toi-même dans le miroir. Et là, effectivement, cette addiction à l'image du corps, on en parle de plus en plus, mais les équipes québécoises avec qui je suis en partenariat travaillent sur l'addiction à l'image du coup du corps. Et je trouve que c'est quelque chose qui a toute sa place à l'heure actuelle dans une société de l'image. De questionner sur cette potentielle pathologie en émergence. Et il y a encore un autre effet, et c'est l'addiction à la sensation. Alors, faut pas oublier que la dope, si tu demandes aux mecs qui sont dopés, notamment un Québécois qui faisait des super vidéos sur l'explication de la dope, je le nommerai pas, mais je trouvais ces vidéos très, très intéressantes. Il est très intéressant aussi. Il est un peu speed hein, quand il parle, mais
je crois que je vois de qui tu parles.
Et, voilà. Alors, je sais pas si j'ai le droit de le citer ou pas, mais sur ça, mais bon. Ce sont les gens qui comprennent de qui je parle, mais moi je respecte tout à fait ces vidéos. J'ai trouvé très intéressantes, ça m'a beaucoup intéressé. En tout cas, j'ai trouvé très intéressant. Et tu vois, ben il en parle. Hein, les mecs qui prennent un gramme de testo dans la semaine, ils ont chaud, quoi. Ils ont chaud. L'héroïdrage, c'est un effet qui est connu. Et le problème, c'est que cet effet de sensation, savoir que la testostérone, c'est une hormone masculinisante et c'est une hormone de l'agressivité aussi. Donc, imagine en fait concrètement. Alors moi, voilà, j'ai bien regardé au niveau pharmaco, tu vois. Concrètement, un individu qui n'aurait pas de testostérone dans son corps, un homme lambda, il aurait besoin à peu près de 125 mg de testostérone énantate par semaine pour fonctionner, tu vois. Concrètement, un mec qui a un taux de base et qui se met 1 gramme dans le cornet, c'est-à-dire qu'il peut avoir jusqu'à 10 fois le taux, tu vois, il peut avoir 10 fois le taux de testostérone dans le sang. Et là, concrètement, on a des effets d'euphorie. D'euphorie et hein, de l'habilité un peu émotionnelle et au niveau de l'humeur. C'est-à-dire que le mec, il va prendre confiance. Et effectivement, on est sur la drogue, hein, presque. Hein. Mais on a vraiment cet effet de confiance qui va être exacerbé. Tu vois, et ça peut être dangereux, quoi. Les mecs, ils se mettent un gramme de testo, plus derrière d'autres molécules pour être un peu plus up, plus l'effet, du coup, sur le corps, tu te sens un peu mieux, plus plein de choses. Là, t'as des mecs qui peuvent être overconfidence et qui peuvent être sur des prises de risque, tu vois, multiples, hein. Que ça soit, par exemple, d'un coup, il a une poussée, il a un pulse de testo, savoir que nous, les hommes, on a un pulse de testo toutes les heures, hein. On a un taux du coup qui est lissé, qui est du coup dans une normale, hein, dans une fourchette normale sur 24 heures, mais on a un pulse toutes les heures à peu près. Et bien là, lui, il a un pulse de testo physiologique plus derrière les hormones, bah il conduit, il se met à 200 quoi, il dit tout va bien, tu vois, tout va bien, je me sens bien, tu vois. Et ça, c'est très compliqué à le travailler parce que c'est un effet d'euphorie et de bonheur en fait. Et ça, cet effet d'euphorie, d'exaltation, il est très compliqué à travailler, je trouve, parce que du coup, ben comment tu peux enlever à quelqu'un cette sensation qui n'aura jamais d'une manière physiologique, tu vois. Avoir un gramme de testostérone dans le sang à un moment donné, c'est pas donné à tout le monde, à part aux jours.
Ouais, mais parmi les témoignages de ceux qui ont déjà utilisé des stéroïdes, c'est vrai que c'est pas la première fois que j'en parle sur ce podcast, hein, mais ils ont souvent la tendance à dire qu'ils se sentent un peu comme des super humains et qui vont être supra. Enfin, c'est de la supraphysiologie hein, finalement, puisque tu t'injectes, comme tu dis, 10 fois plus d'hormones que le corps n'en produit. Donc, il y a vraiment cette sensation d'être Superman. Tu lèves beaucoup plus lourd, tu récupères beaucoup plus, tu manges plus, tu fais moins de gras, tu fais plus de muscles. T'es un humain amélioré. Donc effectivement, quand on te coupe ça et que tu reviens à la normale, t'imagines la. Là, comment ça devient fade.
Alors, effectivement, là, on est sur l'effet psychologique. Donc, faut pas oublier que, du coup, ces addictions, là, la sensation à l'image du corps, elles peuvent générer après des dépressions. C'est-à-dire vraiment des phases de dépression, de déprime. D'autant plus qu'il faut pas oublier quelque chose qui est assez contraignant, c'est que ces mecs-là qui sont en lover, on va dire surdose, il y a un effet sur la libido. C'est-à-dire qu'à un moment donné, trop, inhibe. Donc là, tout ce qui est des fonctions érectiles et du désir, eh bien, ça peut être complètement mis à mal. Le retour à la normale est très compliqué. Alors surtout sur des dysfonctions érectiles, au niveau de la confiance en soi, franchement, c'est compliqué pour ces patients-là à remonter la pente, quoi. Parce que là, du coup, c'est ce qui fait l'homme, hein, entre guillemets. Donc, tu vois,
tu finis un peu par te tirer une balle dans le pied au bout d'un moment, quoi. Certaines
doses. Un peu plus haut, mais voilà. Ouais. Mais là, oui, effectivement, oui. Ouais.
Et finalement, tu prends pour être plus viril et à partir d'un certain niveau, ouais. Ben, c'est ce qui te rendait plus viril t'enlève la virilité.
Sur ça, voilà. C'est un effet contradictoire. Hein. Mais c'est un peu l'histoire d'Icare, hein, concrètement. On parle beaucoup du complexe d'Adonis à cause de la mythologie qu'il y a derrière Adonis. Parce que le complexe d'Adonis, dysfonction musculaire, hein, c'est comme ça que le nom est pop. Hein. Mais concrètement, on est sur quelque chose qui est aussi transversal avec le mythe d'Icare, quoi. Les mecs, ils ont tellement voulu tutoyer le soleil qu'ils en sont brûlés les ailes. Et là, c'est la même chose. Ils ont tellement voulu tutoyer l'image du corps parfait qu'au final, ils se sont crachés, quoi. Ils se sont éclatés à terre. Hein. Là, effectivement.
Bon, et comment on peut est-ce que ça se soigne tout ça? Oui, j'imagine. Évidemment, il y a des traitements. Peut-être, c'est un petit peu large parce que il y a pas la, là sur un cas précis comme ça de quelqu'un qui aurait développé des addictions par rapport à des stéroïdes, c'est extrêmement large. Si on se ressent peut-être sur la dysmorphie, quels sont les traitements possibles et est-ce qu'on peut réellement s'en sortir ou il y aura toujours des traces d'image de soi comme ça?
Alors ça, comme je disais, c'est toujours individu dépendant. Si un individu vient en consultation avec la dysmorphie musculaire, il ne sera jamais le même profil. Il n'y a pas un profil type pur et dur, tu vois. Il y a toujours, on va dire, une pastel de profil. Mais ce qui est sûr, c'est que, tu vois, par exemple, certains vont répondre à une thérapie par la parole, le besoin de vider leur sac, le besoin de parler. Tu vas avoir plusieurs profils, hein, des gens qui ont besoin d'être contenus, des gens qui vont avoir besoin de symboliser, d'autres qui vont avoir juste besoin d'être déchargés sur la séance. Ça dépend des profils. Et t'en as certains qui vont hyper bien répondre à des protocoles très fermés, tu vois, plutôt de type thérapie comportementale et cognitive, même les thérapies comportementales et cognitives de la dernière vague avec, par exemple, l'inclusion de l'esprit de pleine conscience dedans, par exemple. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, là, je parle que du psy, hein, faire très, très attention. Moi, je parle que pour, je suis un peu égoïste, mais je mange de ma gamelle.
Non, t'as raison de préciser là.
Je parle que du psy, hein. Parce qu'il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai vraiment une optique de travailler en collaboration avec tous les professionnels de santé. C'est un peu compliqué en libéral, par exemple, mais c'est important et c'est encore mal compris dans ces pathologies, tu vois, de travailler vraiment ensemble, main dans la main, pour construire un projet thérapeutique individualisé qui va avoir le plus de chances de marcher pour l'individu. Et ça, malheureusement, c'est très compliqué. Je te donne par exemple, il y a un jeune qui prenait de la dope. Et à un moment donné, il me dit, ouais, je sais pas quoi faire et tout. Je fais, mais écoute, concrètement, déjà, tu vas être chez ton médecin, tu fais une prise de sang, faut au moins avoir une biologie de base pour savoir où tu en es, savoir si à un moment donné, il y a une redirection chez un endocrinologue pour savoir si t'as besoin de faire une relance, si t'as besoin de prise en charge spécifique, si c'est ça, voilà, tu vois, il y a plein de choses à mettre en place, mais ça dépend. Moi, je peux pas travailler sans un médecin généraliste. Si à un moment donné, le somaticien me donne pas le feu vert, moi, je peux pas travailler avec lui. Parce que si à un moment donné, moi, je travaille avec lui en me disant c'est psychique et au final, derrière, c'est biologique, moi, je me plante, tu vois. C'est déjà vu, hein, des gens qui viennent, écoutez, je comprends pas trop et tout, mais tu vois pas le psychisme, tu vois, ça m'est déjà arrivé beaucoup avec des enfants. Tu les as en séance, tu dis, mais c'est pas psy, et tu les envoies chez le médecin, tu les envoies chez le neurologue, le neuropédiatre, et là, tu dis, mais en fait, concrètement, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un gamin en séance, et de faire un bilan, il y avait un ralentissement cognitif et tout, je dis, non, c'est pas psychique, il faut absolument qu'il retourne voir le médecin. Et je m'étais pas planté. Il avait de l'épilepsie infraclinique, ce gamin. C'est-à-dire que concrètement, le pauvre, en fait, il n'arrivait pas à réfléchir. Parce que derrière, eh ben, du coup, le cerveau, il se déphasait. Il fait qu'il n'arrivait plus à réfléchir. Il avait des phases de freeze. Eh ben, là, c'est la même chose. Si à un moment donné, tu as quelqu'un qui vient me voir et que, du coup, derrière, j'ai pas l'aval du somaticien pour me dire, bah, tu peux bosser parce que nous, on s'occupe du biologique. Je peux pas travailler d'une manière efficiente. Tu vois. Donc ça, c'est important, le travail en collaboration, il est encore un peu mal mis en place. Comme je disais, ce jeune qui était venu me voir pour aller chez le médecin généraliste, je lui avais recommandé d'aller faire au moins une biologie, au moins de faire un point avec le médecin généraliste, qu'il fasse un examen somatique complet, tu vois, vraiment. Et bien, il y allait, tu sais ce qu'il lui a dit le médecin? Le médecin lui a dit, c'est pas mon bail, et concrètement, c'est pas la sécurité sociale de payer tes conneries. Donc tu vois, déjà on n'est même pas après sur la démocratisation de cette vision-là du soin, en disant ben écoute, là on était sur quelqu'un qui avait presque en train de développer peut-être une addiction stéroïde anabolisant, on était du coup sur une consultation limite d'addictologie, tu vois. On était sur une consultation à un moment donné qui pouvait s'orienter sur alors savoir qu'en addicto, tu es toujours sur quand tu reçois une consultation d'addicto, que ce soit les médecins ou les psys, il faut vraiment mettre en place quelque chose d'un climat motivationnel. Vraiment, c'est un courant. Psychologique, vraiment, qui s'appelle du coup l'entretien motivationnel, mais pour vraiment faire arrêter et faire du coup ressentir à l'individu, ce qui est le cas, je dis pour les gens qui peuvent nous écouter, qui ont ces difficultés, que tout le monde a le pouvoir de changer, tout le monde a le pouvoir à un moment donné de s'engager au changement. Et ça, c'est vraiment important, tu vois. Donc déjà, sur la prise en charge, pour moi, il y avait à louper du message. Après, je sais pas ce qui s'est passé en séance, mais je trouve que dans la prise en charge, grosso modo, s'il est sorti sans avoir d'examen, en s'étant fait bouler alors qu'il venait avec cette problématique et qu'il a été honnête dans son discours, dans son récit envers moi, je trouve qu'il y a eu un problème, tu vois, dans cette prise en charge, concrètement. Parce que moi, je pouvais pas le prendre en charge, par exemple, en disant, mais écoute, je te prends en charge, ton humeur, je veux dire que t'es en dépression, alors qu'en fait, c'est un taux de testostérone qui aura des pâquerettes et qui fait qu'il est déprimé. Tu vois, moi, je travaille beaucoup, j'adore le biologique, j'adore le somatique, la physiopatho, tout ça. Je pense tout le temps à ça en consulte. Tu vois, je suis là, j'ai le psychologique, mais je me dis, quelle est la part du biologique dedans? Tout le temps, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Donc, vraiment, le protocole de soins, comme je disais, moi, je parle que du psy parce que je suis pas somaticien, je suis pas kiné, je suis pas ostéo, tu vois, je peux pas parler de tout ça. Mais concrètement, tu vois, pourquoi pas, à un moment donné, je t'enverrai quelqu'un parce que, du coup, dans la dysmorphie musculaire, il était en surentraînement. Au niveau du corps, il s'est complètement foutu en l'air, plein d'articulations. Il a des tendinopathies multiples. Là, je te l'envoie. Je sais pas, moi, c'est pas à moi de lui faire du sport-thérapie en rééduque au cabinet, tu vois, je peux pas faire ça. Donc là, je te l'envoie, c'est logique, tu vois.
Non, mais de toute façon, c'est sûr que le cloisonnement des problématiques n'est pas la solution pour résoudre la problématique, justement. On sait qu'il va y avoir plusieurs composantes dans un problème, comme tu le dis, hein, et puis des conséquences qui vont déborder dans plein de
spécialités. Il appartient au pluridisciplinaire, il peut pas appartenir à une seule personne. Tu peux pas être tu peux pas tout faire. On peut pas bouffer dans la gamelle des autres. Et tu vois, je trouve que des fois certains bouffent un peu dans la gamelle des autres, et ça me dérange. Moi, je me cantonne à ma gamelle. Et quand je sens que ça commence à dériver, j'envoie vite, tu vois, chez un confrère ou une consoeur en disant là, moi, je peux pas le faire, ou là, ça m'appartient pas à ma profession de pouvoir juger ça, tu vois.
Avant de conclure ce podcast,
ouais.
J'aimerais juste qu'on termine quand même par discuter de ton mémoire, de ce que tu as fait, puis du projet Adonis que tu as voulu mettre en place, qui, je pense, si les gens sont restés jusque-là à l'écoute de cet épisode, on va les féliciter. Et puis surtout, vous avez bien fait de rester jusque-là, parce que maintenant...
Tu leur dis de l'entretien motivationnel dès le départ, vous pouvez le faire jusqu'au bout.
Peut-être que je dirais ça en introduction.
Pour les prochaines, on s'en souviendra. Bon.
Pour le coup, donc, le projet Adonis, ça consiste en quoi exactement et pourquoi tu as voulu mettre ça en place et où c'est que ça en est aujourd'hui?
Alors, le projet Adonis et du coup, mes travaux de recherche s'orientent... alors, je suis un peu transversal parce que du coup, j'ai un projet individuel, mais des projets collectifs aussi. Savoir que je travaille aussi sur les troubles du coup des apprentissages chez les enfants et les adolescents avec mon équipe de recherche du coup à l'université de Bordeaux. Là, moi, individuellement, je travaille sur l'image du corps, hein, notamment en population sportive. Hein. J'ai vraiment cette double casquette. Je suis psychologue clinicien et aussi spécialisé dans le sport. Donc, je suis généraliste psy, mais aussi avec une spécificité sport, on va dire. Et j'ai cette casquette de chercheur dans lequel, du coup, effectivement, je mène des travaux sur des grosses cohortes, par exemple, pour essayer de comprendre les déterminants. Qu'est-ce qui peut amener en termes de trajectoire développementale à développer la dysmorphie musculaire? Et comment on peut agir sur ces déterminants? Comment on peut les neutraliser? Comment on peut amener l'individu à se protéger de ces déterminants pour ne pas développer, du coup, cette pathologie et, du coup, se protéger de tout cet ensemble délétère qui peut lui arriver? Et ça passe par des phases de prévention. Il y a plusieurs volets. Des phases de prévention. Donc ça, c'est prévention, ça appartient à la santé publique, ça appartient du coup aux régions, ça appartient aussi au plan national de dire à un moment donné, on peut développer quelque chose. Ça appartient aussi aux cliniciens de se former. Quand vous recevez quelqu'un concrètement qui présente une forme entre les troubles du comportement alimentaire, l'image du corps et le sport, posez-vous la question de la dysmorphie musculaire. Et ça demande une actualisation du coup des connaissances pour avoir une meilleure visée, c'est-à-dire diagnostic, mais aussi pour avoir une meilleure prise en charge thérapeutique, pluridisciplinaire. Et dans un troisième temps, ça demande aussi le développement de programmes de prévention, post-traitement, où effectivement, on peut développer des programmes très orientés, des thérapeutiques très orientées sur ces difficultés. Donc moi, je travaille vraiment à ça et je suis en lien avec l'université du coup de Laval, avec le professeur Catherine Bégin, qui travaille, qui est spécialisée sur ça, qui a déjà encadré deux thèses du coup sur la dysmorphie musculaire avec du coup deux doctorants, enfin un doctorant et une doctorante, Isabelle Labrec et Olivier Turcotte, qui c'est québécois, c'est l'équipe québécoise hein, que je salue et je remercie énormément pour la qualité de leur travail et leur soutien, hein, qui ont rejoint le projet Adonis.
On va rappeler peut-être que Laval est une ville qui est au Québec, qui est située juste au-dessus de Montréal, c'est juste à côté de chez moi ici.
Voilà, c'est vers chez toi, vous avez un super complexe en tout cas, ça me tarde de passer le voir, j'espère, en post-confinement, se croiser.
Je pense que au moment où le podcast sortira, cet épisode-là sortira, le confinement sera terminé, mais on aura toujours les conséquences du confinement parce que tu devais toi-même venir au Québec là très et récemment. Ça va pas être possible pour cette année peut-être. Ouais.
Voilà, cette visite était censée appartenir au programme du coup dans le projet Adonis, sur lequel on avait un échange, on va dire, d'informations et de formations sur nos façons de prendre en charge la dysmorphie musculaire en France et au Québec. Donc voilà, le projet Adonis, il a pour mission vraiment de développer, on va dire, un peu ce modèle tripartite hein, sur prévention, détection et prise en charge. Et à l'heure actuelle, on est sur un premier volet très épidémiologique. On cherche aussi d'autres partenaires pour peut-être à un moment donné développer un volet plus clinique sur lequel, effectivement, ça serait intéressant d'avoir quelque chose un peu en francophonie, un peu large, hein, France, Québec, Belgique, Suisse, j'en passe. Hein, vraiment développer quelque chose de très francophone, puisque ça a été vraiment étudié vraiment chez les anglo-saxons pour voir un peu les différences, les points communs et les différences. Donc vraiment, le projet Adonis, il s'inscrit voilà, dans cette vision très holistique de la dysmorphie musculaire et sa constellation, on va dire, de choses à faire, hein, de choses à faire et de problèmes aussi soulevés d'un point de vue de la santé publique, mais aussi d'un point de vue thérapeutique. Et vraiment, moi, mon but, et ça a toujours été, en tout cas, ma dynamique, qui était délétère des fois pour moi, mais ça a toujours été l'échange de diffuser, de donner les infos, d'essayer de comprendre et d'avancer. Et c'est quelque chose qui est important. Si on diffuse pas l'information, je trouve qu'on peut pas avancer seul, quoi. Moi, j'ai toujours été dans cette reconstruction.
Ce que je comprends, c'est que vous avez effectivement besoin de data, vous avez besoin d'informations, de retours pour tester, faire de la, comme tu dis, créer des programmes, la prévention, etc. Mais pour créer des solutions ou trouver des remèdes à une problématique, il faut avoir beaucoup de données, beaucoup de data.
Mais tu fais bien d'en parler. Du coup, je voulais y venir aussi. C'est que là, je pense qu'on aura peut-être un public peut-être plutôt québécois. Je sais pas trop. Après, peut-être.
J'ai une audience principale, alors francophone, ça évidemment. J'ai une audience principalement française. Je pense que c'est dû aux nombreux invités français que j'ai eu pour le coup. Comme le podcast est en français aussi, il apparaît énormément en France. Donc j'ai de l'audience québécoise, suisse, belge, mais très majoritairement
française. D'accord. Et ben du coup, on vous laissera peut-être le lien des questionnaires parce que du coup le nôtre a fermé parce que du coup on a toujours une durée déterminée pour l'ouverture de plateforme de questionnaires. On déclare toujours ça voilà sur les trucs éthiques. Mais le Québec est en plein recrutement. Donc si vous êtes québécois et que vous voulez y participer, je vous laisserai le lien. Et si moi je réouvre le questionnaire, je vous laisserai le lien aussi. Si vous voulez participer, effectivement, on a besoin de vos témoignages. On va éviter les trolls parce qu'on, je le dis pour les trolls, on a des logiciels automatisés. Donc dès qu'il y a le dépassement d'une valeur seuil, en fait, vous êtes éliminé. C'est-à-dire que si vous pratiquez 10 000 heures par semaine la musculation, vous êtes éliminé automatiquement par le logiciel. Donc
Donc on va peut-être rappeler, en fait, c'est un questionnaire qui s'adresse à tous les athlètes et les sportifs pour en fait récolter un peu leur type de pratique, des données comme le nombre d'heures, leurs problématiques, leurs objectifs, etc.
C'est ça. On va avoir vraiment deux volets dedans. Les principaux, c'est l'évaluation dans un premier temps, l'évaluation, plutôt le recueil d'informations, l'âge, le poids, la taille, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, comment vous vous entraînez, qu'est-ce que vous faites comme sport, qu'est-ce que vous consultez comme média, quelles plateformes vous utilisez, vous voyez, des choses très simples, hein, vraiment. Et dans un deuxième temps, on va avoir plutôt l'évaluation de dimension qui appartient plutôt à la santé psychique, c'est-à-dire est-ce que vous allez bien, est-ce que vous êtes déprimé, quel est votre type de personnalité, des choses très simples. Et là aussi évaluation à la dysmorphie musculaire quand même, on va spoiler un peu, mais ça fait partie quand même du protocole, et on va évaluer tout ça. Donc effectivement, on a besoin de grosses cohortes pour pouvoir avoir un regard, une puissance statistique qui nous permet d'avoir un regard, on va dire, objectif sur les modèles du coup qui vont sortir hein, de ces données et qui vont pouvoir nous permettre après de publier sur des modèles prédictifs de la dysmorphie musculaire et pouvoir vraiment agir dessus avec objectivité et de manière très pragmatique, hein, mais qu'on puisse aussi être là pour vous et puis développer des protocoles adaptés. Et puis, tu vois, c'est bête, hein, mais moi, j'aimerais beaucoup intervenir sur les enseignements de BPJEPS pour expliquer comment c'est important, à un moment donné, dans l'encadrement sportif, c'est ce que je fais énormément, mais comment expliquer qu'à un moment donné, sur la pour eux, qu'il faut prendre plaisir. Il y en a beaucoup qui prennent pas plaisir dans les séances. Ils sont là, ils se forcent un peu, tu vois, à venir pour être fit. Mais il faut prendre plaisir. C'est super, le sport. C'est super de se faire du bien au sport. Mais tu vois, tout ça, c'est hyper important. Et je pense que ça passerait aussi par les éducateurs sportifs. La formation des éducateurs sportifs, c'est important de pouvoir leur amener ce genre d'informations. Donc, on vous fait confiance pour avoir un maximum d'infos. Et je vous laisserai le questionnaire, du coup, Québec. Et si je le réouvre, Québec-France, du coup.
Ouais, tu me laisseras les liens du questionnaire, en tout cas l'accès. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode, directement dans la partie concernée. Vous faites dérouler la description. Où que vous soyez sur n'importe quelle plateforme, vous allez retrouver le questionnaire dans Québec et puis celui France. Je sais pas à quel moment vous consulterez, vous écouterez ce podcast, mais vous pourrez, si vous êtes au Québec ou en France, vous pouvez cliquer dessus, vous verrez si c'est ouvert pour la France. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour, on a fait un très bon tour même sur beaucoup de sujets. Tu sais que j'avais encore énormément de questions. Après, beaucoup de questions qui se répétaient aussi parce que moi, j'y connais pas beaucoup de choses à tout ça. J'avais juste la base de base de base et encore avec des termes où j'étais pas sûr. Donc, en espérant qu'on a quand même apporté beaucoup de réflexions et un peu de feedback et par rapport toi à ton expérience aussi, à ce que tu connais, et un peu de recul sur sa propre pratique, voilà, à partir de quel moment elle peut être bénéfique, délétère. Évidemment, c'est extrêmement complexe, on l'a vu, ça prend en jeu énormément de paramètres. Comme tu sais ou pas, peut-être, moi j'ai l'habitude de terminer chaque épisode du podcast par trois petites questions qui sont peut-être davantage personnelles.
Oui.
La première question, c'est est-ce que tu donnerais un conseil à quelqu'un qui commencerait la musculation ou en tout cas une pratique sportive qui n'y connaît pas grand chose, la première chose que tu lui dirais peut-être, ce serait intéressant d'avoir ton avis un peu de psychologue là-dessus.
Mais je vais te faire un peu de pub, regardez les podcasts.
Ouais.
C'est une bonne chose. Mais regardez aussi voilà, ce qu'on fait, mais concrètement, vraiment un conseil pur et dur, moi ce que je donne souvent en fait. Tu vois, par exemple, aux adhérents de la salle de sport dans laquelle je travaille, sur les encadrements sportifs, c'est pratiquer pour vous. Pratiquer pour vous et pour vous faire du bien et de manière structurante, structurée et structurante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être objectif dans ce qu'on veut faire. Il faut se donner des objectifs réalisables, ce qu'on appelle les objectifs SMART aussi. Ça, c'est important, c'est un concept de préparation mentale. Et ça, c'est très important. Et vraiment rester dans une pratique vous fait du bien et ce qui vient structurer dire votre rythme de vie et qui ne vous est pas délétère. Du moment où le sport devient délétère, c'est qu'il n'est plus, il est pas fait pour vous, quoi. Enfin, c'est pas qu'il est pas fait pour vous, mais c'est que il y a un problème, quoi. Il y a un problème et c'est à questionner. Donc venez pour vous et venez pour vous faire du bien.
Deuxième question, est-ce que tu as eu toi un modèle ou un mentor que tu aimerais citer aujourd'hui qui t'a amené jusque là où tu en es, t'a servi dans tout ton parcours?
Un modèle qui m'a servi. Je sais pas si il y a eu un modèle, mais je pense qu'il y a plusieurs modèles. Tu vois, il y a énormément de personnes qui m'entourent, qui m'inspirent, hein, que ça soit des. Alors d'un point de vue personnel, oui, je dirais en inspiration, en personne que je respecte énormément et que j'admire. Ben concrètement, oui, c'est certain, tu vois. Mais, mes parents, mon père, sur, par exemple, effectivement, cette rigueur qu'il avait dans le sport, cette passion qu'il avait dans ses activités, tu vois, cette dévotion qu'il avait en tant que père de famille, ce sont des choses qui sont admirables et qu'on oublie, hein, souvent, et qu'on remarque à l'âge adulte en se disant, voilà, moi aussi, maintenant, je suis un adulte et je remarque les efforts qui ont été faits par les parents, tu vois. Ma compagne, mon meilleur ami, il y a plein de gens que j'admire autour de moi. Et d'un point de vue professionnel, même si c'est amical, tu vois, mon collègue de travail, hein, du coup, Damien, hein, qui m'a énormément appris sur le sport et qui a grandement participé à ma vision aussi que j'ai aujourd'hui sur le sport et la psychologie du sport, hein, concrètement. Mais aussi tous ceux qui ont participé à ma formation, hein, concrètement mes enseignants, mon directeur de thèse qui m'a aidé, des enseignants qui m'ont inspiré, les gens qui m'ont formé aussi en supervision, ce sont des gens à qui je rends hommage, hein, sur qui je suis aujourd'hui et comment je pratique. Et ça, c'est très 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 important. Je pense. Et tous ceux qui ont effectivement participé sur la littérature, hein, les grands qui ont publié, les gens qui, comme j'ai cité, les gens qui ont fait les bouquins sur lesquels je m'étaye aussi, moi, pour ma pratique et pour mes recommandations que j'ai citées dans le podcast. Hein, voilà. Ouais, je
pense que c'est un peu général. Cette question est toujours un petit peu piège parce que c'est comme les Oscars, on a toujours l'impression qu'on va oublier des gens, on a peur de ne pas citer tout le monde.
C'est qu'il y a tellement de gens qui entrent en interaction, qui vont te construire toi, c'est que...
Est-ce qu'il y a un livre qui t'aurait particulièrement marqué, toi, et que t'aimes bien recommander?
Un livre qui m'a marqué. Ouf, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup de livres qui m'ont marqué. Un livre qui m'a marqué. Ça dépend de quel type de livre, tu vois. On va parler des livres, des romans. Moi, j'en ai plein qui m'ont marqué. Des livres sur le sport, j'en ai qui m'ont marqué. De la psy aussi.
Est-ce que tu aurais peut-être, par rapport au contexte de l'épisode d'aujourd'hui, une recommandation précise? Évidemment qu'il y a toujours beaucoup de livres qui ont participé à notre construction et à notre savoir, mais si là, il y a un auditeur qui a écouté le podcast, qui est un pratiquant sportif, qui a eu toutes les informations nécessaire à améliorer sa pratique et sa psychologie par rapport à ça. Est-ce que il y aurait peut-être un contenu supplémentaire qui pourrait l'aider à aller un peu plus loin, à comprendre un peu plus, à s'intéresser davantage à tout ce qu'on a dit aujourd'hui?
Alors c'est pas forcément des livres qui m'ont marqué, mais je trouve qu'ils sont des belles références. Hein. C'est la Bible de la préparation physique et de la préparation mentale. Il me semble que c'est Target, qui faisait là sur le bureau. Oui, mais t'as Target, et Bible de la prépa physique, je l'ai pas sur le bureau. Mais je trouve que c'est des très bons livres, et sinon, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, et c'est, j'ai oublié de les citer, mais bon, comme tu dis, on peut pas citer tout le monde, mais des livres qui sont passionnants et qui m'ont beaucoup marqué, sont des livres notamment sur la périodisation de l'entraînement de Pourcelot. Et Monpo aussi, j'adore Monpo. Ce sont des livres, par exemple, 357 Impact, qui est très intéressant, ou Mon année de musculation de mon pot est très, 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 très bien fait, hein, pour des débutants. Donc, voilà, en termes de physique, voilà, de préparation physique, ce sont des livres qui m'ont vraiment marqué, parce que du coup, je me suis beaucoup nourri de ça pour mes entraînements, les entraînements que j'ai donnés, et je pense que c'est, voilà, pour le sportif, c'est quelque chose d'important. Et sinon, après, sur quelque chose de peut-être plus psychologique, tu vois, c'est quelque chose, je l'ai lu en audio et je le bosse un peu, je le rebosse de temps en temps. C'est L'art de la guerre de Sun Tzu. Je trouve très, très bien ce livre.
Ouais, alors tu vois, c'est marrant parce que on l'avait déjà conseillé sur ce podcast. Enfin, on l'avait un invité l'avait recommandé. C'était Karim Big Kakoch dans les premiers épisodes, je me souviens. Moi, je l'avais noté de mon côté bien avant ça. C'était dans ma liste de lecture et puis je l'avais pas encore lu. Et puis là, très récemment, et quand je dis ça, c'est il y a 2 semaines, je crois. Je tombe sur mon Kindle, je regardais tous les livres que j'avais. Je me dis, ah tiens, L'art de la guerre de Sun Tzu justement. Je me suis dit, tiens, je vais le lire. Et j'ai pas du tout accroché. J'ai lu 20 pages. Je comprends que ça puisse être intéressant, mais j'ai eu vraiment cette... J'ai peut-être pas été dans le bon mental pour le lire, mais j'ai eu l'impression de lire tout le temps les mêmes phrases. Ça me parlait absolument pas, tu vois.
Il est compliqué. Et c'est bien de l'avoir en cours ou d'avoir un livret à côté qui va un peu te condenser, te résumer tout. Tu vois, je pense que c'est important d'avoir ce regard, tu vois, un peu en abstraction dessus. Parce que mine de rien, tu vois, c'est un peu le problème, c'est que c'est un peu comme Freud, c'est un peu comme les anciens auteurs. Des fois, c'est écrit sur des vieux jargons, sur des constructions qu'on n'utilise pas forcément aujourd'hui en termes de logique. Et c'est vrai que ça peut être compliqué à vraiment prendre, hein, tu vois, sur ça.
Il faut l'appréhender avec un certain état d'esprit que je n'ai pas dû avoir en sortant peut-être de quelque chose de plus romanesque, de plus fiction. J'étais peut-être dans un certain état de mental de lecture et j'ai pas été assez en état de recevoir tout ce qu'il y avait dessus, peut-être.
Enfin, ouais, mais peut-être, tu vois, moi, j'ai eu du mal aussi à le lire déjà à l'entendre. Des fois, c'est vrai qu'il y a certaines choses, donc je reviens souvent sur des cours, des choses comme ça que je trouve, en tout cas, bon, je trouve que c'est intéressant d'avoir ces stratégies-là, tu vois, pour son entraînement, vraiment une stratégie. Ils ont même sorti un bouquin, là, je lui fais pas de la pub, je dois l'avoir sur mon chevet, ma table de chevet. C'est regarde. Tu vois, c'est stratégie martiale. C'est l'art de la guerre appliqué aux arts martiaux et aux sports de combat.
Ok.
Tu mettras le lien.
Ouais. Je mettrai tout ça dans le
début. Le début a l'air bien, j'ai pas encore fini. J'en suis tout au début. Hein. Il avait l'air bien. Et après, sinon, si des bouquins pour rêver, surtout en cette période de confinement, je pense que c'était peut-être important que j'en parle, mais moi, il y a deux livres qui m'ont marqué, qui m'ont permis de m'évader. Barjavel, La nuit des temps. Ce livre est fabuleux. Et sinon, tout ce qui est la saga des dieux de Bernard Werber, et qui a aussi écrit Les Thanatonautes, je vous les conseille. Ce sont des livres vraiment d'évasion, et dans lesquels, notamment les Bernard Werber, il y a énormément de culture générale dedans. C'est une mine d'or, vraiment, à lire.
Parfait. Bon, je pense que les gens auront de quoi lire. Je laisserai les liens en description, enfin les liens, pas nécessairement les liens, mais en tout cas les références des livres que tu as mentionnés dans les notes. Comme d'habitude, vous retrouverez ça. Oui. Bon, j'ai passé un excellent moment.
On en a un ou deux autres au cas où. Hein. Tu vois, comme ouais. des réponses, on en a pas parlé, mais tu vois, il y en a plein. Hein. Enfin, surtout Freud, il y en a un que j'aime beaucoup. Les dans la civilisation, ouais. J'en ai pas parlé, mais bon, je vous donnerai peut-être le tout.
Ok, tu m'enverras tout ça. Je laisserai dans la description. Pour les plus intéressés et les plus motivés, comme toujours. Je te remercie d'être passé dans ce podcast. Peut-être, juste avant de conclure, comme toujours, si les gens ils ont envie de suivre un peu plus tes travaux, ils ont envie d'en apprendre plus sur toi, où c'est qu'ils pourraient te retrouver ?
Alors, ils peuvent me retrouver du coup sur mon site internet, hein, www.body-psyché.fr. Et sinon, bon, on a une page Instagram qu'on nourrit un peu moins, mais que... Voilà, qui est quand même là. Donc, et un Facebook aussi. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Là, en ce moment, en plein confinement, ben, je mets quelques audios, des trucs de relaxation un peu. Et il faudrait que je mette quelques programmes de sport pour les adhérents de la salle qui peuvent pas faire de sport. Hein. J'ai eu pas mal de contacts. Mais voilà, si vous voulez me retrouver et suivre mes travaux, je publie souvent des analyses d'articles ou les interviews, voilà, comme les interviews qu'on a fait là, ou avec Nassim Sali, ou avec le 20 minutes. Voilà, je mets tout. Notamment aussi tous les travaux que je fais et présentations que je fais aussi en congrès et en colloque.
Si on veut venir te consulter directement en cabinet, lorsque ça sera possible, c'est que pratique.
Pour tous ceux qui souhaitent, n'hésitez pas à venir. Voilà, je consulte du coup au centre de Bordeaux. Ce sera avec plaisir que je vous recevrai, que ce soit psychologie clinique ou psychologie du sport.
Bah écoute, merci beaucoup à toi, Jérôme. Je te souhaite de passer une excellente journée qui suit. C'était un record absolu au niveau du temps du podcast. Voilà, je pense qu'il y a de quoi faire pour tous ceux qui vont écouter. Je te dis peut-être à bientôt dans un prochain épisode.
Mais écoute, avec grand plaisir en tout cas. Je te remercie pour ton invitation et encore un plaisir d'échanger avec toi. Et j'espère encore plus peut-être venir te voir au Québec très prochainement, post-confinement.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez appris beaucoup de choses et que vous avez voulu rester jusqu'au bout, c'est super. Vous retrouverez dans les notes tous les liens pour suivre les travaux de Jérôme Quadrado, toutes les références qu'on a mentionnées au cours de la discussion. Si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de me le faire savoir toujours est de mettre une évaluation de 5 étoiles sur iTunes avec un commentaire. Vous pouvez me dire en deux lignes ce que vous appréciez sur l'émission et pourquoi vous pourrez la recommander à un ami autour de vous. Si vous voulez vous inscrire à la lettre biomécanique, vous retrouverez aussi le lien dans les notes de l'épisode, dans la description. Vous inscrivez, vous êtes sûr de recevoir chaque nouvel épisode du podcast directement dans votre boîte mail. Vous recevrez aussi mes emails privés de temps en temps. J'envoie des conseils, je vous partage mes découvertes, l'actualité du moment, toujours en lien avec le sport, la santé, vos entraînements, l'amélioration de votre santé évidemment, mieux comprendre la mécanique du corps sous toutes ses formes. Voilà. Excellente journée à tout le monde. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast Biomécanique. Ciao.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match. And reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.